Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 mars 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va-t-il, Mme Victoria ?
Ça va, ça va.
Très bien.
Bon, les bons, les troupes sont fraîches.
Monsieur le Prussien.
Bonsoir Serge de Bekech et bonsoir à nos auditeurs innombrables dans le monde entier et au-delà, n'est-ce pas, Victoria ?
J'ai décidé de l'appeler le Prussien parce que vraiment, il c'est un Prussien, ce mec.
Arceau.
Ah oui, 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 non, mais je ne crains pas de le dire. Bonsoir, M. Gollnisch.
Bonsoir, Serge.
Alors donc, vous avez tous deviné, ô auditeur perspicace, que je reçois ce soir Bruno Gollnisch.
Merci de votre invitation.
Tête de liste à Lyon, donc on ne peut pas nous reprocher, de, encore qu'on ait quelques dizaines de milliers d'auditeurs à Lyon, mais ça, par devoir.
Par Internet.
Par Internet, ou pas, par le satellite Hotbird.
C'est pas suffisant. J'aimerais bien qu'il y ait un Radio Courtoisie permanent à Lyon.
Ah, nous aussi, on aimerait bien, mais ça, c'est une affaire qui ne dépend pas de nous.
Nous ne sommes pas assez ferrés en électronique.
Oh, c'est amusant, ça.
Il faut demander une fréquence au CSA.
Qu'est-ce qu'on fait ? On parle un peu d'actualité. Je ne veux pas vous demander votre avis là-dessus. J'ai vu que vous le regardiez avec une curiosité émue, mais... parce qu'un auditeur m'a envoyé un document qui est intéressant. C'est, je ne sais pas en quoi ça a à voir, mais... C'est quand même intéressant de savoir qu'à la RATP, il y a une association, il y a un groupe, il y a un mouvement, il y a une initiative qui s'appelle Homobus. Homobus, Association homosexuelle des transports parisiens. Ça fait penser, vous savez, dans le temps, il y avait des plombiers zingueurs ou des boulangers pâtissiers. Alors maintenant, il y a des, je sais pas moi, plombiers électriciens ou plombiers dentistes ou... chirurgien pâtissier, donc il y a des conducteurs de train et de métro homo. C'est quand même étrange parce que imaginez qu'un conducteur de métro crée une association des hétéros conducteurs de métro, de RER, de bus et de train, il serait considéré comme un peu...
homophobe.
Ah voilà, c'est le mot que je cherchais.
Et vous savez, Serge, qu'on nous prépare une loi contre l'homophobie et toutes les discriminations. Et vous savez qui est derrière ça, Monsieur Stasi.
Oui, mais ce sera...
Il est toujours derrière...
Ce sera une extension de la loi Guesso. Et oui. Comme l'a dit excellemment
notre ami Petit à une belle réunion que nous avons faite vendredi dernier au Palais des Congrès de Lyon. En parlant de loi Guesso, nous ne prononçons pas une injure homophobe.
Oui, il vaut mieux prévenir.
Voilà, il vaut mieux prévenir maintenant.
Alors, monsieur. Et vous savez pourquoi ? Ce qui est extraordinaire quand même, c'est je veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est assez rigolo. Ce sont les motifs de la fondation de la création de cette association. Parce que, pourquoi crée-t-on une association d'homosexuels qui s'appelle Homobus, c'est-à-dire des homosexuels qui travaillent à la RATP? C'est parce que figurez-vous que d'après le tract qui accompagne l'annonce de cette association, des agents sont gays, lesbiens, bisexuels, transsexuels, et il n'y a point de suspension. Je suppose qu'on peut être d'autres, peut-être
zoophile,
coprophile ou zoophile, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Ben quoi, c'est la vérité, non? Ne peuvent pas être eux-mêmes. Ils, premièrement, n'abordent pas cet aspect de leur vie avec leurs collègues. Mais pourquoi? Parce que les hétéros le font. C'est incroyable d'imaginer quelle idée ils ont de notre vie, ces gens-là. Ils croient que quand on arrive le matin, on dit alors, toujours hétéro. Ouais, ouais, c'était bien. Ouais, formidable. Ils ne racontent pas leurs vacances, week-end ou sorties à leurs collègues sans rien en changer. C'est pas vrai. Tout le monde change. Le gars qui dit « Ah, j'ai passé des vacances à l'île Maurice, fabuleuse. » En réalité, il était à Palais Vastéflot comme tout le monde. C'est peut-être un choix que d'élever une barrière entre une vie professionnelle et vie privée. Dans le cas contraire, si c'est par obligation ou parce qu'ils n'osent pas, ne peuvent pas faire autrement, l'association Homobus offre un autre visage de l'entreprise.
Ouais, mais...
Bon, j'arrête parce que je vais devenir désagréable. Enfin, il faut en profiter pendant que la loi n'est pas votée. Parce que dans quelques temps, même simplement de rigoler ça, on n'aura plus le droit.
C'est vrai.
Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir raconter vos histoires de vacances, mesdames et messieurs, de la RATP. Hein ? C'est parce que en défendant un esprit de tolérance, qui commence d'ailleurs par l'adoption d'une loi liberticide, de respect et de solidarité, l'association Homobus accueille tous ceux qui partagent ces mêmes valeurs. Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l'association Homobus. 31 euros, faut quand même pas oublier le fric. Hein, tout ça n'est pas gratuit, bien entendu. Donc voilà, si vous avez envie de tout ça...
Est-ce que je peux dire un dernier mot, Serge? Parce
oui,
que
non.
On rigole et puis on manipule un petit torchon de 21-29-7. Mais il faut rappeler, puisqu'on y a fait allusion, que cette loi qui est en préparation, les plus hautes autorités de l'État, M. Chirac en personne et son ministre de la Culture, c'est bien choisi, sont mobilisés. Vous vous rappelez, il y a 15 jours, un homosexuel est agressé dans le Nord de façon très brutale par des inconnus, mais M. Chirac et M. Ayagon savent que c'est en raison de ces mœurs. Ils se répandent auprès de la presse, qui reprend leurs menaces, en menaces judiciaires d'une extrême violence, parce qu'ils savent, on ne sait pas comment, ils ont décidé que c'était une agression homophobe, et ouais. Ils disent que bientôt on ne pourra plus, qu'ils vont passer cette loi, et qu'on ne pourra plus même critiquer ou sourire de l'homosexualité.
Ouais. Entre nous,
pourquoi,
heureusement...
J'ai pas de réponse, mais pourquoi est-ce que le président de la République se mobilise dans les termes les plus violent sur cette question?
Ben, je sais pas, moi j'ai une vague idée, mais enfin bon. Et heureusement qu'il n'était pas juif, ce pauvre garçon, parce qu'ils auraient été obligés de choisir. Oui. C'était emmerdant, il y avait deux trucs qui étaient. Alors, ils auraient dit attentat antisémite ou attentat homophobe? Il fallait choisir. Alors, qu'est-ce qu'il rapporte le plus en ce moment? Antisémite, c'est un peu usé. Homophobe, c'est nouveau. Tiens, ça plaît. Allez hop, roulez jeunesse. Et si en plus, attendez, imaginez que c'était un arabe israélite et homosexuel, là, ils étaient carrément dans la luzerne. Non, c'est trop compliqué, ces histoires, faut arrêter. Voilà, ça fait pas partie de la campagne électorale, mais enfin, je voulais quand même faire allusion à ça.
Mais ça en fait un peu partie quand même, parce que je crois qu'au-delà des aspects anecdotiques, il y a évidemment une volonté, d'imposer comme norme ce qui ne l'est pas. Nous n'avons aucunement l'intention de persécuter les personnes. Ce qui se passe entre adultes consentants ne regarde pas la République. Encore, chacun a-t-il le droit de conserver son jugement moral là-dessus? Je crois qu'il y a quand même une volonté destructrice de toutes les règles, de toutes les normes, de toutes les... Et même le refus est là imposé par la censure la plus brutale et la plus féroce de tout jugement critique, de toute liberté d'expression dans ce domaine.
Mais de tout, en
c'est
plus,
pas, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard dans tous les domaines, dans le domaine familial aussi, dans dans le domaine de l'immigration, c'est pareil. Quand vous pensez que Jean-Marie Le Pen a vu son inéligibilité requise, pas seulement pour des raisons administratives ou financières par le préfet des Alpes-Maritimes sur ordre du ministre de l'Intérieur ou de celui des Finances pour ce qui est de l'administration fiscale, mais tout récemment par le parquet pour avoir osé dire dans une interview au Monde que quand il y aurait 25 millions de musulmans en France, les Français pourraient raser et devraient ou devraient sans doute raser les murs.
Je pense à, faute de pouvoir voilà. Se raser la barbe d'ailleurs parce qu'ils n'ont plus le droit.
Ça, c'est... je pense aussi au petit feuilleton assez amusant de politique fiction que votre confrère présent a publié. Ben, ce sont des choses qui sont impubliables désormais et qui tomberont sous le coup de l'incitation à la haine raciale.
Vous faites allusion, Bruno Gollnisch, au porc clandestin de
voilà,
Sanders.
Voilà,
c'est vrai que bientôt, l'incitation à manger du porc va être considérée comme une forme d'incitation à la haine raciale, puisque c'est naturellement contraire aux dispositions ou aux élans naturels de ceux qui sont musulmans. Et d'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui une information qui est très très amusante, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais il y a un grand problème en ce moment au sein de la franc-maçonnerie, c'est que les fameux tabliers en peau de cochon, il y a de plus en plus d'adhérents à la maçonnerie qui sont musulmans et qui disent « non, on ne veut pas porter de tablier en peau de cochon ».
Mais je croyais qu'ils n'avaient jamais été en... Je ne suis pas spécialiste, qu'ils n'avaient jamais été en peau de cochon, évidemment. Je croyais qu'ils étaient en soie.
Non. Ah ben, ça dépend des grades. Ça dépend de... Bon,
je ne suis pas un expert, il est vrai.
Je m'en doutais un petit peu, à vrai dire. Donc ça dépend. Alors il y a des tabliers en cuir, il y a des tabliers donc en peau de cochon, littéralement. Et alors les musulmans disent on veut pas. Alors la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale française apparemment ont accédé aux revendications des musulmans, mais les gens du Géo, qui sont les saucissonneurs du Vendredi Saint, comme chacun sait, ont dit, mais attendez, il n'est pas du tout question qu'on se prive de porc, on ne pourrait plus bouffer le saucisson du Vendredi Saint. Mais c'est vrai ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Hein. Et par conséquent, pas question de changer la peau de porc de nos tabliers. Donc ils vont perdre toute leur clientèle musulmane, ce qui est bien triste. Voilà la vie qu'on vit. Mais enfin, tout ça est subalterne et peu intéressant, bien entendu. Ce que je voulais évoquer avec vous, Bruno Gollnisch, je vous en doutais un petit peu, c'était la campagne électorale, pas seulement.
Si nous en parlions.
À part Lyon, c'est ça, oui, c'est amusant celui-là. C'est pas seulement à Lyon, mais dans l'ensemble du territoire national, puisque vous êtes quand même tête de liste dans le...
En Rhône-Alpes, oui.
En Rhône-Alpes, mais vous êtes également...
Délégué général, donc je m'occupe de l'ensemble de la campagne.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Où va-t-on?
Eh bien, je crois que ça se passe très fort. Nous avons tenu à Lyon récemment une très belle réunion. Le Palais des Congrès était archi plein, il y avait une superbe ambiance. Bien sûr, il y a le coup fourré que le pouvoir a organisé contre Jean-Marie Le Pen, et pas seulement lui d'ailleurs, puisque alors qu'il y a une quinzaine de listes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui je crois bat tous les records, à peu près 150 candidats à chaque fois, très curieusement, le préfet n'a fait l'observation que trois observations, toutes les trois sur la liste du Front National. Mais je pense que ça va susciter plutôt une exaspération, au moins d'une partie de l'électorat, et j'espère que ça n'aura pas d'incidence sur nos résultats dans cette région. Mais j'arrive à l'instant de Picardie. J'étais à Bruxelles hier soir et ce matin, et au Parlement européen, et j'arrive de Picardie où je suis allé soutenir nos candidats, Michel Guignot, Pierre Descaves. Je crois que eux aussi jouent tout à fait dans la cour des grands. Ils sont considérés comme des candidats de premier plan par la presse, qui suit une fois n'est pas coutume toutes leurs activités. Et je pense qu'ils vont faire un très gros score. Certains journalistes les donnent devant. Peut-être devant la liste de gauche, peut-être devant la liste de M. Robien, on ne sait pas. Enfin, ils ont la possibilité. Ils sont en tout cas dans les trois premiers, peut-être même les premiers ou les seconds dans cette région qui n'est pas la plus médiatisée. On parle davantage d'autres régions. Je crois d'une façon générale que nous allons avoir un très beau résultat. J'espère que nous allons doubler le nombre de nos conseillers régionaux, ce qui fera sauter un verrou qui était bien réel Pour l'élection présidentielle, c'était la question des parrainages, parrainages de maires ou de conseillers généraux ou de conseillers régionaux. On parle très peu également des élections des conseillers généraux qui ont lieu le même jour que les élections régionales. Il faut dire que déjà les modes de scrutin sont très complexes pour les régionales. Pour les conseillers généraux, c'est d'ailleurs les conseils des départements, je pense que nous allons pouvoir entrer pour la première fois de façon significative dans ces assemblées d'où jusqu'à présent nous étions exclus. Et puis que j'espère que dans 3 mois d'ici aux élections européennes, nous allons transformer l'essai. Je crois qu'il est raisonnable de penser que nous allons doubler le nombre de nos élus européens et faire un groupe avec d'autres partenaires européens. Je recevais à Bruxelles il y a 8 jours par exemple une délégation du British National Party qui sont des gens tout à fait convenables, pas du tout la bande de skinhead avinés qu'on nous présente dans la presse française et dont tous les observateurs sont d'accord pour dire qu'ils vont avoir des élus, ce qui est bien nécessaire car il faut dire que les conservateurs britanniques ne prennent jamais une position allant à l'encontre de l'esprit dominant et surtout pas de l'esprit des socialistes, assez curieusement. Alors je crois qu'avec les Britanniques, avec nos amis flamands, que le pouvoir s'efforce d'interdire par un procès absolument inique, c'est incroyable, ils sont chez eux la deuxième force politique, et ils ont un procès qui veut les interdire comme parti liberticide. Procès qui a été perdu en appel par le ministère public et par l'association, l'équivalent du MRAP là-bas, qui s'appelle en Belgique le MRAX, qui est dirigé par un Dominicain et stipendié par le ministère de l'Intérieur. Et c'est un procès perdu en première instance, mais qui vient en appel et qui a été fixé en appel dans des délais extraordinairement brefs, comme si on voulait à tout prix leur tordre le cou dans les meilleurs délais. Et le procès s'ouvre pour ne pas être trop vu des citoyens le même jour que le procès du trou.
Ça aide. Voilà, alors le MRAC, c'est le mouvement régional contre
Donc c'est le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
Ah, la xénophobie.
En Belgique, oui.
Je pensais que c'était le xylophone, ça aurait été
non,
plus
non, non, c'est contre la xénophobie.
C'est bien. Je voudrais vous demander d'éclairer ma lanterne, parce que, je veux dire, je ne suis pas très intelligent, mais vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout, c'est qu'apparemment, la nouvelle législation, enfin le nouveau règlement électoral prévoit une prime à la liste en tête. Je ne comprends absolument rien.
Personne ne comprend rien à ce système, alors qu'un enfant de 10 ans était capable de comprendre l'ancien système, qui était simple, qui était juste, et que je vais décrire sommairement, si vous le voulez bien, en une minute. Chaque département avait un nombre de conseillers proportionnels à sa population. Les listes étaient constituées au niveau départemental et elles recevaient dans ce nombre de conseillers, pas une 25 par exemple pour la Drôme, si vous aviez un cinquième des voix, vous aviez un cinquième des sièges, donc 5 sièges pour votre parti issu de la Drôme, et puis tous ces gens-là se réunissaient au chef-lieu de la région et l'ensemble se formait le conseil régional. C'est un système simple, c'est un système clair, à un seul tour, juste, équitable, et qui, contrairement à ce qu'on a dit, ne gênait absolument pas la gestion des régions, car aucune région de France n'est paralysée à l'heure actuelle dans le cadre de ce système, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire à un moment. Elles sont toutes gérées, elles ont toutes leur budget, il n'y a pas de problème. Alors, on a substitué à ce système un autre, dans le but avoué de faire obstacle au Front National. De faire disparaître le Front National, ce pelé, ce galeux, qui représente les souffrances et les aspirations d'à peu près 10 millions de Français, si on compte les familles, qui n'a déjà pas un seul député ou un seul sénateur pour porter précisément la voix de ces 10 millions de Français, ce qui ferait traiter de république bananière n'importe quel autre régime que le nôtre. Mais ça suffisait pas, il fallait aussi le faire disparaître des assemblées régionales. Alors ils ont concocté un système à 2 tours. Et ils ont imaginé de fixer une barre pour passer du premier au deuxième tour extrêmement élevée. Une barre que n'avait pas franchie M. Chirac, par exemple, arrivé en tête à l'élection présidentielle. En se disant quand même, on rattrapera les deux premiers. Et ce qu'ils espéraient, c'est que les deux premiers, ça soit un coup l'UMP, un coup le PS, et l'autre, l'autre fois, un coup le PS, un coup l'UMP, et que par conséquent, de cette façon-là, en ayant fixé une barre quatre fois plus élevée, en gros, que ce qu'il n'est nécessaire d'obtenir au final pour avoir des élus, eh bien, on allait empêcher le Front National d'être au deuxième tour, et comme le partage des sièges se fait en fonction du deuxième tour, eh bien, il n'y aurait plus un seul conseiller régional Front National. J'ai assisté moi-même au débat parlementaire depuis la tribune que l'on appelle plaisamment l'ossuaire, en argot parlementaire, qui est celle des anciens députés, et j'ai été assez étonné de voir que je pensais qu'au moins que l'hypocrisie, qui, comme chacun sait, est un hommage que le vice rend à la vertu, allait faire que les promoteurs de cette scélératesse diraient ben, c'est un meilleur système parce que ça permet de dégager des majorités cohérentes, blablabla. Non. C'est un bon système parce que ça va réduire le Front National. Non, rétorquait la gauche à l'orateur UMP, M. Accoyer, c'est nous qui sommes les mieux placés pour combattre le Front National, etc. Tout ça était le Front National qui n'était d'ailleurs pas présent et pour cause dans l'hémicycle. Oui, c'est un peu le sketch du canard, vous savez, de Robert Lamoureux. Oui, on veut manger, la famille veut manger le canard, mais le problème c'est qu'avant il faut tuer le canard. Alors on essaie tous les moyens, et ça me faisait rire quand j'étais enfant, j'entendais ça.
Et le mardi, le canard était toujours vivant.
Et le mardi, le canard était toujours vivant, le canard est toujours là. Alors, en plus, ils ont, pour rattraper leurs petits camarades, par exemple, pour les socialo-communistes, les Verts, ou les communistes, comme ceux-ci, comme c'est le cas en Picardie, font une liste à part, pour l'UMP, l'UDF. Bon. Il y a une possibilité de fusion des listes entre les deux tours. Alors, on peut fusionner avec une liste qui fait plus de 10% des voix, à condition d'en avoir fait soi-même 5. Et à la fin du deuxième tour, on donne une prime à la liste arrivée en tête du quart des sièges, en plus de ce à quoi lui donne droit sa représentation. Mais, en plus, les listes ne sont plus départementales, elles sont régionales. Mais quand même, il y a des colonnes départementales.
C'est hallucinant.
Et comme l'a révélé le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, qui s'est quand même un peu étranglé, bien qu'il soit composé aux trois quarts de Chiraciens, il se peut très bien que dans un département, une liste qui a obtenu moins de voix qu'une autre ait plus de sièges. Et d'ailleurs, on ne sait pas aujourd'hui exactement à l'unité près de combien de sièges disposera chaque département, parce que ça va dépendre du résultat.
Ah, c'est fabuleux.
Parce qu'ensuite, on attribue les sièges à chaque liste, globalement au niveau de la région, et chaque liste se répartit ses sièges au niveau de ses colonnes départementales en fonction précisément des voix qu'elle a obtenues dans chaque département. Je ne sais pas si je suis très clair, j'avoue que sur un sujet comme ça, difficile.
Quel est le givré qui a mis au point ce pile-poule invraisemblable?
C'est M. Sarkozy.
Oh, c'est pas lui, c'est pas possible, il faut avoir plus de 3 neurones quand même.
C'est M. Sarkozy et ses adjoints, c'était le système magique qui devait permettre de faire échec au Front National. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel quand même, dont l'effarement a été réel, et même si ce sont des Chiraciens, il y a quand même une certaine honnêteté intellectuelle, ils ont annulé, ils n'ont pas pu tout annuler, parce que tout n'était pas contraire à la Constitution, même si tout était aberrant. Mais ils ont annulé la disposition la plus scélérate du dispositif, celle qui fixait une barre aussi élevée pour être présent au deuxième tour. Du coup, pour être présent au deuxième tour, il ne faut plus réunir que 10% des exprimés. C'est déjà pas rien, hein, 10% des exprimés. Et alors la catastrophe patatras abomination, tel que ce système est conçu, il laisse filtrer le poisson Front National, qui dans la plupart des régions de France, et je l'espère dans toutes, fait plus de 10% des exprimés.
En revanche, le Parti communiste.
Il risque de filtrer. Alors, le Parti communiste des Verts, c'est pas dramatique. Ils seront pris en charge au deuxième tour par le Parti socialiste, dont
S'ils
ont plus de 5% des suffrages, c'est sûr, et ça ne sera pas peut-être le cas partout. Mais il y a des tas de forces politiques qui chassaient plutôt, il faut bien le dire aussi, un peu sur les terres du Front National, qui, elles, vont rester sans représentation, et dont j'espère bien que, quand même, leurs électeurs cocus, mais je l'espère mécontents, vont se retourner contre les auteurs de ces manipulations. Je veux parler de ce qu'on appelle les souverainistes, c'est-à-dire des gens qui, avec un peu de retard sur nous, mais enfin quand même, sont en principe attachés à la défense de la souveraineté française. Je veux parler des chasseurs, je ne le suis pas moi-même, mais ce sont des gens qui trouvent que l'Europe de Bruxelles devrait ne pas s'occuper de tout, et en particulier ne pas s'occuper de réglementer leurs loisirs. Je veux parler des régionalistes qui, à mon avis, ont tort, parce qu'ils pensent, peut-être, par exemple, chez moi, en Rhône-Alpes, il y a un mouvement régionaliste savoyard, ou paraît-il, il faut dire savoisien. Bon, ce sont des gens qui se trompent, parce qu'ils croient pouvoir, ils croient que la Savoie peut se sauver sans la France, ou pire encore, même contre la France.
Grâce au décolletage.
Bon, oui, au décolletage,
qui est roi d'Italie,
mais qui est une industrie locale, oui. Mais ceux-là sont quand même attachés à une identité. Alors j'espère que tous ces gens-là vont se reporter sur nos listes, et je crois que ça constitue pour nous un certain nombre de réserves.
Mais d'ailleurs, Bruno Gollnisch, il me semble que non seulement ce système peut laisser filtrer dans l'état actuel des rapports de force le Front National, mais que ce qui s'est passé aux dernières élections turques nous montre qu'il peut lui ouvrir une voie royale, puisque un système de ce type qui visait à bloquer la représentation électorale du parti islamiste l'a amené au pouvoir.
Ah, tout à fait. J'étais en Turquie il y a 6 mois et j'ai rencontré un certain nombre de personnalités politiques, beaucoup de députés, et puis il y avait beaucoup, quand il s'agissait des libéraux, quand il s'agissait du parti de Mustafa Kemal, etc., c'était des anciens députés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 partis de la coalition gouvernementale. Pour éviter l'émergence d'un parti nationaliste et d'un parti kurde, ils avaient fixé une barre de 10% justement des suffrages. C'est-à-dire qu'un député qui, dans une circonscription, avait peut-être 80% des voix, ne pouvait pas être élu si son parti n'avait pas obtenu au plan national 10%. Et comme ça, ils pensaient être tranquilles et avoir éliminé la concurrence. Le problème, c'est qu'ils ont fait, ces 3 partis ont fait aux élections entre 8,50 et 9,80% des voix, et ils ont été tous les 3 éliminés, ce qui fait que le parti nationaliste turc, avec 1/3 des voix, a les 3/4 des sièges.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Mais ça serait, c'est impossible en France, puisqu'ils ont fait cette espèce de coalition de Brick et de Broc et l'UMP, parce qu'il y a un peu tout, quoi. C'est un parti ramasse-tout. Mais ça serait, on pourrait vivre la même situation si chacun avait gardé sa spécificité partisane.
La prime au vainqueur, si vous voulez, c'est ce qui a permis aux municipales, à des gens comme Jacques Bompard, par exemple, d'être élu à Orange. C'est-à-dire qu'avec 1/3 des voix, si notre tiers est un tout petit peu plus gros que celui des autres, eh ben on a plus de la moitié des sièges, et à ce moment-là, on peut gouverner sans même se préoccuper de la question des alliances.
C'est à Marseille, ça, que les tiers...
Ça dépend de la grandeur des tiers.
Il faut que notre tiers soit un peu plus gros que celui des autres. Et alors, je pense que ça peut encore être le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est certain qu'avec Jean-Marie Le Pen, il y avait une chance très sérieuse que ça se produise, et ça a fait très peur à l'établissement, c'est évident.
Mais d'ailleurs,
il n'est pas impossible que notre ami Macari, d'ailleurs, parvienne aussi à ce résultat. Je le souhaite de toutes mes forces.
Mais les dangers de ce système pour leurs instigateurs, on les voit bien en Rhône-Alpes, quand l'UDF et l'UMP se réconcilient sur votre dos, si j'ose dire. Je crois qu'en PACA également, des gens en très mauvais termes se sont réconciliés, tandis que en Île-de-France, nous avons une campagne flamboyante de M. Santini. Je voudrais signaler au passage à nos auditeurs que M. Santini paye le coup à tout le monde ce soir sur le bateau phare à 21h, le bateau phare qui est ancré sur la Seine en face de la bibliothèque Mitterrand. J'y insiste parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs vont aller se faire payer le coup par Monsieur Santini. Il offre 2 consommations gratuites sur le bateau phare en face de la bibliothèque.
Il a
les moyens. Et donc c'est un exemple ce soir à 21h sur le bateau phare de la campagne flamboyante qu'il dirige. Il semble dire d'abord contre l'UMP.
Oui.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'en PACA et en Rhône-Alpes, vous représentez vraiment un danger tel que les deux parties de la droite courbe doivent se réunir?
Ben, j'espère qu'on représente un danger partout, pour tout, un danger pour le système. Je crois que Marine Le Pen fait aussi une campagne extrêmement active ici en Île-de-France. Et je pense qu'elle peut créer la surprise. En PACA, nous avons dit ce qu'on pouvait en penser, mais il y a d'autres régions, de l'aveu même de Bérou à l'émission 100 minutes pour convaincre, la région Alsace, c'était aussi l'une de celles où il était d'accord pour ne pas présenter de candidat ou pour faire l'union. Au motif qu'il y avait un danger Front National, et je crois que notre ami Binder, qui est un Alsacien pur jus, bien intégré, qui vient de faire l'objet d'une procédure, oui. D'ailleurs dans le cadre de la loi Guesso, pour un journal satirique où il mettait en cause, mon Dieu, dans des termes modeste, l'immigration.
Je crois qu'il est poursuivi pour avoir montré le fameux dessin des sans-papiers qui réclament du papier. Entre autres. Je crois que c'est Char.
Non, c'était celui-ci, c'est un dessin de Kong. Le Char Kong. En fait aussi d'excellent. Ouais. J'aime beaucoup.
Mais c'est extraordinaire parce que ce dessin est paru partout. Il est paru plusieurs fois.
Oui, mais on trouve toujours, des censeurs trouvent toujours de plus censeurs. Comme je disais à des étudiants de gauche de l'Institut d'études politiques, c'est un peu pléonastique ça, de Lyon, la loi Guesso aujourd'hui censurerait impitoyablement les appels à la résistance lancée depuis Radio Londres.
Ah bah évidemment.
Ah oui.
Bah, c'est clair.
Ils m'ont expliqué que c'était pas la même chose parce que l'invasion que nous vivions aujourd'hui était pacifique.
Ah oui.
Oui, à quoi j'ai répliqué que les Allemands étaient bien bêtes d'avoir au lieu de venir en rang serré, en uniforme et avec des chars. Il fallait qu'ils viennent un par un avec leur Gretchen
et leur
valise et leurs enfants sous le bras, et à ce moment-là, ils auraient tous fait des comités pour les installer.
C'est ce que je ne cesse de répéter depuis des années. S'ils avaient remplacé les fusils et les mitraillettes par des valises et des pelles, on aurait dit, mes chers amis, rentrez donc, installez-vous. Il y a de la place
pour vous. Le pays est à vous.
À la demande express de Bruno Gollnisch, qui a insisté là-dessus, parce qu'il m'a fait le reproche de ne pas le faire.
Le reproche amical, que je me fais aussi avec mes longs tunnels.
Nous allons donner la parole aux auditeurs.
Alors, un auditeur, Monsieur Gollnisch, que pensez-vous des 6, 7 ou 8 bombes qui se trouvent sous les rails du réseau ferroviaire français et des 5 millions de dollars réclamés par un groupe terroriste dénommé AZF? Pensez-vous que ce groupe est un groupe islamiste? Le choix de ce nom pourrait expliquer l'accident de, entre guillemets, de Toulouse.
Ça, je ne me prononcerai absolument pas sur le groupe parce que toutes les provocations sont possibles. Simplement, c'est une forme d'insécurité qui est prévisible et contre laquelle nous n'avons pas prévu grand-chose jusqu'à présent.
Moi, je trouve que 5 millions de dollars, c'est dérisoire. Tant qu'ils y étaient, ils auraient pu réclamer 1 milliard de dollars.
Oui, mais enfin...
sérieux, là.
J'espère que ce sont des gens pas sérieux parce que s'ils ont effectivement... on a trouvé une bombe, s'ils en ont mis effectivement le long du parcours, s'ils sont prêts à tuer des innocents pour leur entreprise de raquette, c'est là qu'on regrette aussi un peu quand même l'abolition de la peine de mort.
Je pense à une chose là-dessus. Oui, tout à fait. Mais il y a une chose qui me frappe. D'abord, c'est que Sarkozy a fait une sortie extrêmement virulente contre les journaux qui avaient révélé ça. Et ça a conduit à... Il a expliqué, le ministre de l'Intérieur français a expliqué au micro d'une radio périphérique que ce qui se passait était scandaleux parce que il avait passé des accords avec les journalistes au terme desquels les journaux ne devaient pas parler de cette affaire et que la dépêche du Midi n'avait pas respecté cet accord. Alors il faut tirer de ça la première conclusion, c'est que le ministre de l'Intérieur passe des accords avec des journalistes. Ça, je ne savais pas. Moi, j'ai jamais vécu ça, même à l'époque où j'avais une carte de presse. La deuxième conclusion à tirer, c'est qu'il y a des journalistes qui acceptent les ordres du ministre de l'Intérieur, mais ça, on n'est pas surpris, on le savait depuis longtemps. C'est quand même, on vit quand même, vous avouerez, dans un pays assez étrange. Et puis, il y a autre chose qui me paraît quand même frappant, c'est qu'on a l'impression, alors je ne sais pas comment il faut expliquer ça, que tout est fait pour empêcher les gens de bouger. Mais ça va. J'entendais hier Delanoé qui expliquait comment il avait décidé d'immobiliser les voitures dans Paris en multipliant les obstacles à la circulation à l'intérieur de la capitale. On a l'histoire des radars qui bloquent pratiquement, par la terreur, la circulation des voitures à 130. Bon, la plupart des voitures, la plupart des conducteurs sont quand même capables de rouler au moins jusqu'à 150, 160 sans provoquer des catastrophes. On a les trains qui sont bloqués, plus ou moins, ou en voie de se bloquer, ou de désaffection à cause de ça. Les avions, les compagnies aériennes disparaissent. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on prenne sac à dos et qu'on se balade à pied ?
Oui, mais là, c'est un petit peu différent, parce que là, s'il s'agit vraiment d'un acte criminel, ce que je trouve, moi, très étonnant, c'est que le ministre de l'Intérieur donne une information à des journalistes en disant, surtout, ne le répétez pas. Parce que ça, ou bien c'est un novice en politique, ce que je ne crois pas, mais parce que ça, c'est très exactement ce que l'on fait quand on souhaite qu'une information transpire.
C'est bien ce que je voulais dire.
C'est ça.
C'est pour ça que je pense que cette affaire est beaucoup moins claire qu'elle ne paraît.
Oui, c'est pas...
Il me revient qu'à la veille de l'élection présidentielle de 81, M. Giscard d'Estaing a providentiellement échappé à un attentat à l'aéroport d'Ajaccio. C'était 15 jours avant des élections. Il est généralement admis que les menaces de terrorisme bénéficient au pouvoir en place d'un point de vue électoral. Je n'accuse rien ni personne, je signale le fait. C'est quand même très suspect que cette affaire éclate précisément maintenant, à 3 semaines des régionales.
C'est vrai, il faudra voir ça avec beaucoup d'attention.
Un auditeur, je viens de lire que TDSL, télévision par ADSL, allait diffuser les chaînes Algérian TV, Al Jazeera, Beur TV, TV7 de Tunisie et 2M de Maroc. Je suis surpris de cette discrimination de ne pas diffuser également les chaînes israéliennes.
Oui, et puis on pourrait dire peut-être une chaîne nationale française.
Une chaîne ou deux nationales françaises aussi.
Pourquoi pas Radio Courtoisie ou Télé Courtoisie?
Non, je crois que je suis pas d'accord.
Télé Courtoisie, ce serait bien, non?
Je sais pas, ça ferait un gros tabac à Télé Courtoisie.
À Télé Courtoisie, je pense que ce serait, ça supposerait les, ouais. Écoutez, moi je trouve déjà, en dehors de Radio Courtoisie, il faut bien dire, dans le paysage audiovisuel français, moi je suis quand même étonné, par exemple qu'à Lyon, il y a Radio J, bien sûr, Radio Salam, Radio Arabo-Musulmane, il y a Radio Trait d'Union, il y a trois ou quatre radios comme ça, il y a des radios, il y a Radio Arménienne, il y a des radios portugaises, il y a la radio catholique, il y a la radio, très bon français, d'origine portugaise et catholique, et trouver un intérêt.
Il a trois radios à écouter
de ces radios. Mais pourquoi y aurait-il pas une radio traduisant notre sensibilité? Celle d'une famille d'esprit qui est quand même apparue comme étant la plus importante à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête dans l'ensemble de cette région, cette région soviétique. Alors on me dit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, on me dit, ah non, parce qu'il n'y a pas de radio politique. Alors il y a des radios pour les homosexuels, il y a des radios religieuses, etc., mais il n'y a pas de radio politique, c'est une plaisanterie.
Radio libertaire.
Toutes les radios, il y a une radio anarchiste, et puis
les radios Tour Eiffel.
Et puis les radios d'État sont quand même assez largement à gauche. J'ai pas eu l'impression véritablement que la rédaction de Radio France, par exemple, était particulièrement neutre entre les deux tours des présidentielles. En tout cas, ça ne transpirait pas à l'atmosphère qui régnait dans leurs locaux, au tract, à la façon dont on était accueillis à ce moment-là sur les plateaux.
Un auditeur, salutations à tous. Ces bombes, c'est du sérieux, notamment en raison du type de détonateur utilisé.
Oui, très, très vraisemblable, oui.
Une auditrice, les listes Front National vont-elles se présenter sous l'appellation Front National ou sous un autre sigle?
Non, en règle générale, nous affichons la couleur. C'est par exemple, en Rhône-Alpes, c'est Front National pour Rhône-Alpes. Voilà. Liste Front National pour Rhône-Alpes, liste Front National pour l'Alsace, liste Front National pour la Franche-Comté, la Bourgogne, etc. Donc le nom de la province figure, naturellement, mais nous annonçons la couleur politique également.
Un auditeur, pouvez-vous repréciser votre programme pour Rhône-Alpes? Deuxièmement, qu'en est-il de vos relations avec Marine Le Pen, dénigrées par la presse malveillante?
Écoutez,
les relations qui sont dénigrées.
Les relations qui sont dénigrées, oui, j'entends bien. Il faudrait poser la question à Marine, mais moi je souhaite absolument, sans l'ombre d'une réticence, un très grand succès pour elle en Île-de-France, le plus grand possible, et je suis persuadé qu'elle souhaite la même chose pour moi en Rhône-Alpes. Alors, je sais bien quel plaisir on prend à essayer de nous opposer. Je crois que nous sommes suffisamment occupés l'un l'autre, d'ailleurs. Aurions-nous l'intention de nous disputer, ce qui n'est pas le cas, qu'on n'en aurait même pas le loisir, voyez-vous. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En ce qui concerne le programme, j'ai publié un programme en 200 pages, alors c'est assez difficile de le résumer, mais
vous avez 5 heures, Bruno.
Alors, je vais essayer de le faire en une minute. Premièrement, bloquer les impôts. Je prends l'engagement de ne plus augmenter aucun impôt, alors que la fiscalité a progressé, a été multipliée par 7 depuis que je suis entré dans cette institution. J'ai donné les détails, les chiffres, par 7.
Mais pas, vous dites depuis que je suis entré, vous
n'y êtes pas. En 86. Ah non, j'y suis pour rien. J'ai hélas toujours été dans l'opposition, et précisément dans l'opposition. Si, sauf si moi, avec Charles Millon, à ce moment-là, nous avons imposé à Charles Millon, qui avait besoin de nous pour faire passer son budget, l'arrêt de la fiscalité et même la suppression d'un petit impôt qui est la taxe sur les permis de conduire. Il n'y a plus de taxe sur les permis de conduire en Rhône-Alpes, et on le doit au Front National. Et donc, bloquer l'impôt, réduire la dette au tiers du budget annuel. Deuxièmement, je prends l'engagement, puisque la région est compétente pour les transports en commun et les lycées, de sécuriser les transports en commun et de sécuriser les lycées. Et notamment, je doterai tous les lycées de la région qui le souhaitent, hein, ceux qui ne le souhaitent pas, non. Mais ceux qui le souhaitent, par leur conseil d'administration, où les professeurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes sont représentés aujourd'hui, de les doter de tous les équipements de protection, de surveillance, de contrôle, d'accès, de détection, qui permettent au moins de les prémunir totalement contre les intrusions extérieures, les agressions, le vandalisme et les violences venant de l'extérieur. Ça ne changera pas radicalement la situation de la sécurité dans toute la région, qui est un problème, bien sûr, national, mais ça peut faire quelque chose. Troisièmement, en ce qui concerne l'économie, nous aiderons les très petites entreprises. Et pourquoi ? Parce que nous allons axer notre programme sur la famille. Je précise, la famille, de préférence, la famille française, et de préférence, une vraie famille. Je sais bien qu'il y a des familles désunies, ça, ce sont les aléas de la vie. Mais enfin, pour nous, en principe, c'est plutôt un papa, une maman, leurs enfants, les grands-parents, si on a la chance d'en avoir. C'est pas monsieur, l'amant de monsieur, la mère porteuse intérimaire, les enfants clonés et les petits frères, les petites sœurs en embryon congelé au frigo prêt à servir. Bon. Et alors, comme nous voulons aider la famille par une politique d'accueil de la vie, que j'ai pas la possibilité de développer ici, le temps manque, nous allons axer notre programme économique sur l'accession à la propriété, du logement. Y compris pour les plus modestes, accès à la propriété du logement social qu'ils occupent, ou pour ceux qui ont un tout petit peu plus de moyens, l'accès à la propriété, pourquoi pas de la maison individuelle, ce qui suppose que nous nous efforçons de rendre un plus grand nombre de terrains constructibles de façon raisonnable, sans porter atteinte à l'environnement, pour faire baisser les coûts du foncier. Et par là, relancer la construction. Nous allons aider les très petites entreprises, les artisans. Parce que quand on relance la construction, on sait que c'est pas pareil que si on relance la consommation de chenifi. Si on relance la consommation de matériel de radio, de télévision, de photos, ça profite à l'industrie japonaise ou chinoise.
Donc,
si
contre on relance, laquelle vous n'avez rien.
Contre laquelle je n'ai rien, mais dont je ne suis pas chargé de défendre les intérêts. Je suis chargé de défendre les intérêts des travailleurs français, et dans travailleurs, j'inclus évidemment les artisans, les commerçants, les paysans, les chefs d'entreprise, etc. Alors, nous allons par conséquent développer ces aides aux très petites entreprises, notamment en prenant une partie des charges sociales de celles qui embaucheront au moins un compagnon. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont des carnets de commandes pleins, qui veulent pas embaucher à cause des difficultés que ça représente et des aléas. Cela, nous allons les aider. Et puis, nous allons aussi modifier en conséquence la formation professionnelle pour qu'elle soit davantage en alternance avec l'entreprise. Et nous allons réorienter les actions internationales dans un sens de plus grande réciprocité. Et nous allons nous efforcer d'attirer des investissements étrangers dans la région. J'y serai aidé par un jeune et très brillant avocat international, maître Olivier Vissard, et qui parle quatre ou cinq langues couramment, dont le russe. Et nous allons nous efforcer, moi-même en y apportant mon capital de relation avec le Japon, de faire venir des investisseurs dans cette région, mais dans des domaines qui ne soient pas directement en compétition avec les intérêts français. Nous n'allons pas faire comme Jean-Louis Borloo, qui, pour créer des emplois à Valenciennes, a fait venir Toyota, ce dont il se gargarise, et qui, dans le même temps, a coulé, évidemment, le double d'emplois chez Renault, Peugeot ou Citroën. Et puis, nous allons créer un vaste réseau d'aide aux jeunes mamans. J'entends par jeunes celles qui viennent d'avoir des bébés et qui ont besoin d'appui et de soutien, aux personnes âgées, isolées, et aux handicapés, en faisant appel au bénévolat et au parrainage, qu'y compris les plus jeunes peuvent exercer sur les anciens, parce que ça, je crois que ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Et enfin, sur le plan culturel, nous allons sortir des âneries coûteuses, je dirais même ruineuses, que l'on voit à l'heure actuelle. Nous ne financerons plus, par exemple, ce qui a été financé par la région, Cloaca, la machine à caca, une espèce de tube. Non, mais c'est authentique. Mais c'est authentique. Un tube où on mettait de la nourriture à un bout et le reste sortait à l'autre bout. C'est peut-être une expérience.
Mais moi, j'en ai un à la maison.
Intéressant.
Ça s'appelle aussi un chien.
C'est une expérience intéressante en biologie, mais en art, ça ne nous paraît pas intéressant.
Ça s'appelle un chien.
La Biennale d'art contemporain, dont le clou était un étage où, sous des tentes militaires, on exposait des produits ramassés dans un sex shop que la décence m'interdit de décrire ici, pendant qu'on projetait des films des auteurs en train de se faire des papouilles à poil. Non, ça ne sera plus financé avec l'argent du contribuable.
Mais qui faisait ça?
Bon, c'est la Biennale d'art contemporain de Lyon.
Mais c'est financé par la région?
Mais bien sûr, la région contribue.
Mais ils sont dingues ou
et
quoi
quand... Mais il n'y a pas que ça. L'étoile de Buren qu'on achète 100 000 francs, sur laquelle il a tiré... Parce que je savais qu'il a défiguré la place du Palais Royal et aussi d'ailleurs celle de la mairie, mais il est peintre en même temps. Donc c'est une toile blanche sur laquelle il a tiré 10 traits à la règle. Il est vrai de longueur inégale, 100 000 balles.
Ah.
100 000 francs, 10 000 francs le trait.
Un effort créatif, là.
10 000 francs le trait, n'est-ce pas? À la Villa Gillet, où sont exposés où est exposé le frac, le cercueil en métal qui rouille, évidemment, une caisse de métal sur laquelle il est écrit Sigillard. Voilà. Bon. C'est une œuvre primée. Le clou ayant été la sculpture Terra la Terre du sculpteur Parmangiani, un nom de fromage, et vous allez comprendre pourquoi, elle a été vendue 400 000 francs, c'est une motte de glaise dans laquelle l'artiste a imprimé ses mains avant de la passer au four, et dont il a obtenu par contrat avec la mairie de Lyon qu'elle soit inhumée pour que la Terre revienne à la Terre 6 mois après avoir été exposée aux yeux du commun des mortels. Donc il y a une espèce de cortège funèbre présidé par l'adjoint à la culture et dans un petit carré qui se trouve au Palais Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent Lyon, ou ceux qui ne connaissent pas, allez voir le Palais Saint-Pierre, c'est d'ailleurs un fort beau musée qui se trouve sur la place des Terreaux, qui est celle de la mairie, et demander à un gardien, de préférence un ancien, où se trouve la sculpture Terra la Terre. Il vous montrera le petit carré de buis sur lequel il y a d'ailleurs, je crois, une petite plaque qui
on en rit, mais il mériterait d'être pendu.
On en rit. Moi, je trouve que c'est comme canular, c'est délicieux. Et à partir du moment où ça coûte 500 000 francs aux contribuables lyonnais, je dis c'est criminel, parce qu'on fait ce genre de pitrerie avec l'argent des plus humbles, des plus pauvres, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et alors nous allons avoir une toute autre politique, qui consistera justement à diversifier notamment ces subventions pour que ça n'aille pas toujours au même copain et au même coquin. Et à aider l'art en aidant, parce qu'on l'appelle, ce que nous appelons nous le chèque culture, et qui est expérimenté déjà aujourd'hui pour les lycéens, et qu'on peut étendre à d'autres catégories, par exemple aux personnes âgées à faible revenu, pour commencer, c'est-à-dire un petit carnet qui permet d'aller à des prix très avantageux, voire même parfois gratuitement, voir un musée, une pièce de théâtre, assister à un concert ou une représentation à l'opéra, etc. Alors, on donnera ça aux gens ils iront voir ce qui les intéresse. Ouais. Nous arrêterons la fumisterie coûteuse avec le parti pris de laideur et de provocation qui règne trop souvent dans ce domaine. Ouais, je résume, je me suis un peu étendu sur la culture parce que c'est là qu'on nous attend pas, mais je résume un programme que mes colistiers et moi-même avons défendu d'ailleurs depuis des années dans ces institutions. Je crois surtout que nous avons les gens capables de l'appliquer. J'ai présenté mon shadow cabinet, c'est-à-dire ce que serait l'exécutif de la région, en quelque sorte les ministres entre guillemets de la région, autrement dit les vice-présidents chargés chacun d'un secteur, et dans chaque secteur nous avons des gens de grande compétence.
D'autres questions,
Victor? Un auditeur, êtes-vous d'accord avec l'analyse de Roger Olindre? Nous sommes vraiment gouvernés par des gros nuls.
Non, c'est un des rares points sur lesquels je me distingue de Roger. Je suis d'accord avec lui qu'il y a quelquefois des gens qui sont ignares ou aveugles. Mais quand tous les trains vont dans le même sens, qui est celui de la pente de la décadence, du renoncement, de l'abdication nationale, je pense qu'on n'a pas affaire forcément à des nuls, on peut avoir affaire aussi à des criminels.
Un auditeur, bien sûr, le 21 mars, les nationaux seront en tête et nous serons tous des durs. Mais le 28 mars, la France française sera dégoûtée et si fortement qu'il lui faudra au moins 5 ans pour se ressaisir. Ce schéma est tellement commun qu'on a fini par croire qu'il est arrangé entre parlementaires.
Non.
Entre partenaires, excusez-moi.
Oui, l'observation de ce monsieur n'est pas tout à fait fausse. Mais là, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nos adversaires, que je combats résolument, et en particulier nos adversaires de gauche et d'extrême-gauche, sont des gens qui mènent un travail inlassable. On peut penser ce qu'on veut du trotskisme. Moi, je pense que le trotskisme, c'est une idéologie criminelle, absurde, scélérate, abominable. Mais les trotskistes, moi, je les connais depuis plus de 30 ans, quand j'étais étudiant à Nanterre. Eh bien, ils ont travaillé avec acharnement. Ils ont formé des cadres. Ils ont noyauté des syndicats, des administrations, la poste, etc. Et ils ont fait ça sans perspective d'être élus députés, d'être élus conseillers régionaux, etc. Sans se décourager, sans se lasser. Alors moi, je pense un petit peu à la phrase de l'Évangile. Je crois qu'il faut que les enfants de lumière soient aussi intelligents et j'ajouterais aussi persévérants que ceux des ténèbres. Parce que c'est vrai que notre famille d'esprit passe trop souvent par des alternances d'enthousiasme et de découragement. Eh bien, écoutez, il n'y a pas tellement de raison de passer par le découragement parce que pour le moment, nous progressons. Allez, nous progressons sous la direction de Jean-Marie Le Pen depuis une vingtaine d'années. Une progression à peu près constante qui a été seulement ralentie par la division que vous connaissez en 98 et par les manœuvres qui l'ont accompagné avec, je le pense, l'appui du pouvoir. Je dirais que nous en avons même la preuve aujourd'hui. Mais voilà, autrement, nous progressons et il faut continuer à travailler. Rien ne s'obtient sans travail.
Un auditeur, pouvez-vous préciser votre position au cas où il y aurait une triangulaire?
Au cas où il y aurait une triangulaire, nous nous maintenons. Je dois dire, je vois pas comment, madame, chez moi, nous serons trois. Je pense qu'il y aura des triangulaires presque partout en France, d'ailleurs. Bon. Nous serons trois. Il y a monsieur Kéran, candidat socialo-communaux et écologiste, puisqu'il prendra les Verts. Et s'il pouvait prendre les trotskistes, et si ceux-ci voulaient bien, il les prendrait en selle, sans barguigner. Bon. Et puis il y aura madame Comparini, qui a été élue à la présidence du conseil régional en 98 par M. Kéran et par ses amis, contre la majorité des élus RPR-UDF de l'époque, et qui est demeuré l'otage de la gauche, qui leur a donné toutes les présidences de commission.
C'était pas une bariste, hein?
C'est une UDF, oui.
Mais elle était bariste.
C'était une proche collaboratrice de Raymond Barre.
C'est ça.
Bon, et Mme Comparini, qui a pris sur sa liste Madame Michel Noir, laquelle apporte son nom, dit-elle. oui, c'est-à-dire un nom lié à la Corse, qui prend sur sa liste en position éligible les amis d'Alain Carignon, nouveau président de l'UMP dans l'Isère.
Qui apporte son prestige.
Qui apporte, oui, c'est ça, vêtu de probité candide et de lin blanc, hein, en quelque sorte. Madame Comparini dit « j'ai des valeurs ». N'est-ce pas?
Des valeurs. Avec
oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous avez les valeurs des voleurs, oui. J'ai des valeurs, je ne prendrai sur ma liste aucun des anciens RPR ou UDF qui ont été élus avec les voix du Front National. Donc, je ne vois pas comment elle pourrait solliciter nos suffrages.
Moi, j'ai connu Mme Comparini beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup moins délicate dans le choix de ses amis.
Ah, bah, toujours est-il que je ne vois pas comment elle pourrait vouloir de nos suffrages, et si en l'on voulait, ce serait de toute façon pas pour faire une politique différente de celle des socialistes. Par conséquent, d'ailleurs, le mode de scrutin dispense aujourd'hui de quelque alliance que ce soit. Je le regrette parce que ça me paraît pas du tout antidémocratique que des listes se présentent au premier tour ou à l'élection, puis qu'ensuite on voit si on peut s'entendre sur une plateforme commune. Ça me paraît pas du tout scandaleux. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, ça n'est plus ni utile ni souhaitable.
Une auditrice, aux dernières élections régionales, lorsque vous avez donné vos voix à M. Millon, il y avait des manifs, des bagarres, jusque dans l'hémicycle régional, provoquées par les gauchistes.
Oui.
Si vous remportez la région, que ferez-vous pour empêcher tout cela?
Ah, mais la différence entre Charles Millon et moi, c'est que moi, je n'essuierai pas les crachats sur la joue gauche en leur signant un chèque de la main droite comme faisait Charles Millon. Moi, je réunirais, parce que c'était essentiellement les permanents de la culture. Alors les établissements d'enseignement. Alors je les réunirai et je leur dirai, écoutez, voilà, comme citoyen, vous avez tout à fait le droit de nous critiquer. À titre individuel, vous pouvez vous présenter aux élections contre moi, il n'y a pas de problème, aux prochaines élections, vous faites ce que vous voulez. Mais en tant que responsable d'organismes publics ou d'organismes financés par les collectivités publiques, vous n'avez absolument pas le droit d'engager la collectivité que vous dirigez contre un exécutif régulièrement élu. Je vous donne donc une semaine pour que tout rentre dans l'ordre, sinon vous ferez vos pitreries sans l'argent de la région. Et je crois que ça se calmera tout seul.
Alors, une question de détail. Monsieur de Robien a pris Miss France sur sa liste. Pourquoi le Front n'a-t-il pas demandé à Brigitte Bardot de participer à la liste en PACA?
Ah, écoutez, ça, je ne sais pas, d'ailleurs, si je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. Je ne crois pas que M. de Robien ait très bien fait de prendre cette Miss France-là, qui s'affiche avec un personnage d'un groupe de rap, Tom C, je crois.
Oula,
qui est un groupe qui a été d'ailleurs été l'objet de plaintes pour qu'il lance des appels au meurtre. Je pèse mes mots, des appels au meurtre contre les policiers. Et je peux vous dire, parce que j'arrive de Picardie précisément, que Monsieur de Robien, qui a cru avec ce gadget un peu dérisoire gagner des voix, est plutôt soucieux de cacher l'intéressé aujourd'hui, qui devient un peu compromettante depuis notamment que nous avons révélé le fait.
C'est pas très malin de prendre une Miss France si on est obligé de la cacher, vous savez, je vois pas l'intérêt.
Et précisément.
Un auditeur, comment se fait-il qu'au niveau de l'affichage en région parisienne, on ne voit pas beaucoup le Front National? Est-ce une stratégie ou un manque de militants?
Ah, écoutez, je suis pas de votre avis. Moi, j'ai vu beaucoup d'affiches de Marine Le Pen. C'est même un peu la seule que je vois affichée. Mais il faut savoir que l'affichage, qui était une liberté, une forme de la liberté d'expression, comme la liberté de réunion, de la liberté de la presse en particulier, et comme d'autres libertés, l'affichage se réduit. Vous n'avez plus d'endroit où vous pouvez afficher librement. Si vous affichez maintenant le long des routes, etc., vous vous êtes condamné à de très lourdes amendes. Vous n'avez plus que l'affichage commercial. Or, je suis bien placé pour savoir que les grandes sociétés d'affichage commercial dans ma région, que j'ai sollicité, car j'aurais pu payer quelques panneaux d'affichage avec les frais de campagne, avec les avances que mes colistiers veulent bien et moi-même faisons pour payer nos frais de campagne, eh bien, ne daigne pas répondre et pratique un refus de vente, et qui me paraît d'ailleurs tout à fait scandaleux, et qui va leur valoir à leur président, parce que j'en ai assez cette fois-ci, de se retrouver sur les bancs de la correctionnelle. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes beurs qu'on refuse, apparaît-il, à l'entrée des discothèques, qui peuvent porter plainte pour discrimination. Alors nous allons faire un peu un testing, comme l'on dit, sur ces grands afficheurs, en cette fois-ci en se faisant passer, je ne sais pas, pour des marques de fixe chaussettes qui veulent faire un budget publicitaire, et nous apercevrons, sous contrôle d'huissier, que les panneaux qu'on nous présentait jusque-là comme occupés sont en fait libres, et ensuite nous porterons plainte contre eux. Mais il faut bien savoir qu'il est de plus en plus difficile d'afficher, mais je ne saurais trop, je serais trop inciter nos amis à participer à la campagne d'affichage, parce que c'est encore une fois une dissuasion un petit peu du faible au fort.
Bruno Gollnisch, quelle que soit la sympathie que vous nous inspiriez, on ne peut pas toujours être parfaitement agréable. Alors là, à ce point, je suis obligé de venir au secours de l'auditeur et de dire que moi, j'ai des informations particulières, des militants du Front de la région parisienne qui m'avouent dans le tuyau de l'oreille qu'ils traînent des pieds pour coller les affiches et faire la campagne de Marine parce que, me disent-ils, ils préféreraient faire la vôtre.
Oh, là, vous m'étonnez beaucoup. Vous m'étonnez beaucoup, et moi je vois beaucoup de gens qui sont enthousiastes aux réunions de Marine, que je soutiens, encore une fois, absolument sans réserve. Maintenant, chacun a ses préférences, il y a peut-être des gens en Rhône-Alpes qui préféraient faire campagne pour Marine que pour moi. Après tout, elle a des charmes et des attraits que je n'ai pas. Non, ça je crois pas, chacun.
Ah bah,
chacun,
pas, peut-être que...
chacun a ses préférences.
Vous allez peut-être vous adresser à Homobus, ou des affiches.
C'est possible, mais... Non, je crois pas. D'ailleurs, encore une fois, je vois pas mal d'affiches, moi, à Paris. Alors, dans la banlieue, c'est peut-être un petit peu plus difficile, en effet.
Justement, une auditrice nous dit « Je trouve que les affiches du Front sont beaucoup moins arrachées que les années précédentes. »
C'est vrai.
Il faut apporter une précision technique que j'ai, parce que j'ai reçu ça sur mon courriel, c'est que les affiches ont été livrées assez tardivement. Et elles ont été livrées il y a quelques jours à Saint-Cloud. Elles n'ont pas encore, tout simplement, elles n'ont pas encore pu être mises en place toutes.
Ah, il y en a déjà qui sont arrivés, mais on n'en voit pas. Écoutez, nous sommes ici à deux pas de la porte de Saint-Cloud. À la porte de Saint-Cloud, on en voit pas mal. Ouais. On en voyait, mais c'est régulièrement enlevé aussi par les services de voirie, il faut bien dire.
Un auditeur, avez-vous des nouvelles du colleur d'affiche du Front National qui a été renversé volontairement samedi dernier à Clichy?
Non, je n'en ai pas encore.
Une voiture.
J'arrive de Bruxelles et je me proposais d'en prendre, oui.
Une voiture occupée par deux jeunes maghrébins.
Ce qui est une tentative d'assassinat.
Ça s'appelle une tentative d'assassinat. Il a été blessé, apparemment pas très grièvement. Enfin, il est quand même tombé sur la tête et il a sonné un bon moment.
Un auditeur, n'y a-t-il pas un problème de délai au second tour des régionales pour la fusion des listes?
Oui, mais c'est un problème que nous ne posons pas. Nous ne voyons pas comment les gens qu'ils ont craché à la figure, nous ne voyons pas comment, encore une fois, des gens comme M. de Robien, qui a publiquement, devant les caméras de télévision, broyé avec, parce que c'était une carte en plastique, je crois, avec une tenaille, une cisaille, sa carte du Parti Républicain, parce qu'il trouvait que Madeleine ne condamnait pas assez fermement le Front National. Bon, c'était en puérilité incroyable. Bon, ou Mme Comparini, encore une fois, qui dit partout qu'elle ne reprend pas ses anciens amis RPR-UDF qui ont été porté à la présidence de la région avec les voix du Front National, nous ne voyons pas comment ces gens pourraient avoir l'indécence de nous solliciter. Leur démarche est très claire. Plutôt les socialistes et les communistes que le Front National. Nous avons 100 fois tendu la main, elle n'a pas été saisie. D'ailleurs, beaucoup de ceux à qui nous l'étendions les ont de leur côté plutôt sales. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi le problème se poserait. Mais la question...
C'est quand faut-il encore leur tendre la main?
Moi, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas.
Mais est-ce qu'on ne va pas vraiment vers une fusion UMP-PS?
Non, mais...
Quand on voit, par exemple, Chirac, on en parlait tout à l'heure, faire du zèle pour déborder la gauche sur sa gauche sur les problèmes d'homophobie, de loi contre l'homophobie, quand on voit Monsieur Pinte, le député maire UMP de Versailles, qui se dépense en faveur des immigrés et maintenant en faveur des intermittents du spectacle, est-ce qu'on ne va pas vers une situation où l'UMP et le PS vont vraiment fusionner, tandis que le Front National va devenir la véritable opposition, ce qui va lui conférer des graves responsabilités?
Mais ne doutez pas un seul instant que si, par exemple, notre ami Macari, qui a pris, dans les circonstances que vous connaissez, la suite de Jean-Marie Le Pen, était en tête, par exemple, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui demeure tout à fait possible, les socialistes se retireraient au profit de l'UMP ou l'UMP au profit des socialistes, pour faire échec au Front National et renonçant de leur côté à avoir des élus. C'est clair. Mais la question de votre auditeur est quand même très réelle. C'est que s'il devait y avoir des fusions, je pense pas chez nous, mais peut-être chez les autres. Par exemple, je souhaite bien du plaisir à Kéran, qui est chez moi le leader socialo-communiste, quand il va devoir fusionner avec les Verts. Parce que les résultats sont connus dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut tomber d'accord au cours des négociations. Il y a le problème de la parité. Il suffit pas de dire je vous réserve, cher ami, la troisième place. Si la troisième place elle doit être occupée par une femme et que votre interlocuteur est un homme, ça marche pas.
Il faut que les Verts aient 5%, vous nous l'avez dit.
Il faut que les Verts aient 5% et il faut livrer des millions de bulletins de vote et de professions de foi le mercredi matin. C'est un exploit que peu d'imprimeurs sont capables de faire. Le nôtre, Fernand Le Rachinel, en est capable, mais ça n'est pas très fréquent.
Un auditeur, j'ai bien peur que, comme ces deux messages qui se complètent, j'ai bien peur que, comme à l'élection présidentielle, au deuxième tour, il n'y ait personne du Front National au bureau de vote, ou d'autres personnes honnêtes, c'est-à-dire que le scrutin soit complètement faussé.
Il a raison.
Et le deuxième.
Il a raison, j'ai peur aussi, moi.
Le deuxième vous dit, vous pourriez peut-être profiter ce soir de l'occasion pour émettre un appel pour recruter pour les prochaines élections des scrutateurs qui observent le bon déroulement du scrutin.
Je lance cet appel, et ces deux auditeurs ont parfaitement raison, je lance cet appel, c'est un appel pressant, car ils ont raison, il y a de la fraude électorale en France, beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et si nous n'avons pas d'assesseurs, de scrutateurs, de délégués dans les bureaux de vote, il y en aura à notre détriment. Et puis, je dirais, indépendamment de cela, si nous n'avons pas le civisme suffisant pour être capable de sacrifier pour nos convictions un, voire deux dimanches, eh bien, c'est que le discours que nous tenons est un discours vain. Si nos adversaires, eux, sont capables d'aligner des scrutateurs, des assesseurs, des délégués, et que nous n'en sommes pas capables, eh bien, c'est que nous ne méritons pas, en réalité, de l'emporter, et que nous sommes d'indignes défenseurs de nos convictions.
Un auditeur, je ne suis pas d'accord avec vous, nous n'avons pas affaire à des adversaires, mais à des ennemis.
Ah oui, si, bien sûr. Oui.
Un auditeur, qui subventionne, d'après vous, l'agression visuelle par les tags qui se généralisent et défigurent notre France? Que pensez du laxisme des responsables sur cet aspect, apparemment anodin?
Oui, je crois que c'est effectivement, ça procède d'une volonté de destruction du patrimoine, de laideur, d'agression contre la propriété privée. Ça me paraît clair. Je suis pas certain que ce soit absolument systématiquement subventionné. Je crois que c'est plutôt le laxisme des autorités, en effet.
Il y a un signe, de toute façon, de ça qui est extraordinaire. On a vu avec Patrick Goffman, il n'y a pas très longtemps, pas très loin de la gare de l'Est, dans une rue très passante, il y a une boutique qui est exclusivement consacré à la vente de produits destinés à faire des tags, qui sont interdits. Moi, je ne comprends pas comment, dans un pays qui est un peu géré, on peut autoriser l'ouverture d'une boutique qui vend uniquement des bombes à peinture, des tenues, des lunettes spéciales, des masques spéciaux pour faire des tags, avec des modèles de tags en vitrine, alors que c'est interdit. C'est un peu comme si on disait, vous n'avez pas le droit d'acheter de la drogue, mais vous avez le droit d'en vendre.
C'est comme si on fabriquait des voitures qui roulent à 160.
J'allais le dire.
Oui.
Oui, c'est ça. Oui, j'allais le dire.
C'est bien vrai.
Oui.
Un auditeur, Les affiches du front sont systématiquement arrachées par des commandos. Je peux vous affirmer, en tout cas, qu'on en colle tous les jours.
Oui, ça dépend à quel endroit, mais il y a des endroits où elles tiennent et des endroits où elles sont arrachées. Je félicite cet auditeur d'en coller, en tout cas.
Je veux dire que c'est aussi vieux que l'affichage, ça.
Absolument.
L'affichage des
Absolument.
Affichages.
On a vexé un militant, apparemment.
Non. J'ai tenu à dire, et je crois que c'est vrai, qu'il y a de bons collages qui sont faits, y compris en Île-de-France.
Un auditeur, que pensez-vous d'une union possible, fût-elle ponctuelle, avec messieurs Maigret et Villiers ? Ne pourriez-vous pas cesser vos querelles pour vous unir afin de constituer une force capable de balayer nos ennemis ? Et le front est le meilleur outil, je voterai pour le front. Mais je suis désolé de voir que la petite guerre continue avec le MNR. Ne peut-on au moins faire silence à ce sujet pendant la campagne ? Ce sentiment est partagé par beaucoup de nationaux.
Bah, écoutez, je vous mets témoin que j'en avais pas dit un mot jusqu'à ce que vos auditeurs en parlent. En ce qui concerne, je crois que les deux choses sont différentes. Philippe de Villiers est un peu l'intermittent du souverainisme. Il va se présenter aux élections européennes. Il va, comme d'habitude, j'ai vu faire ça trois fois de suite, quitter ensuite, un peu après son élection, le Parlement européen. Mais moi, je ne vous cache pas que, en accord avec Jean-Marie Le Pen, je lui ai proposé, dans une circonstance un peu particulière, au moins une discussion à cette fin, et qu'il ne le veut pas parce que si il allait jusqu'au bout, il perdrait le Conseil général de Vendée. Voilà. Parce que l'UMP lui mettrait des bâtons dans les roues au Conseil général de Vendée. J'observe d'ailleurs qu'il n'y a pas un seul candidat villiériste. Le seul candidat villiériste, le représentant du parti de M. de Villiers dans ma région, a été éliminé par Mme Comparini, qui ne l'a pas pris en position éligible. Donc je ne me gêne pas de le dire à la radio, à la télévision. Il s'agit d'un homme qui est dans une maison, en quelque sorte, concurrente du Front National, mais qui, sur le plan personnel, est tout à fait respectable, M. Patrick Louis, pour ne pas le nommer. Et moi, je crois que ces électeurs devraient logiquement se reporter sur nous. En tout cas, en ce qui concerne Maigret, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas une formation politique qui soit née en dehors du Front National. C'est issu d'une division du Front National. C'est issu d'une division dans des circonstances que je crois moralement inacceptables de la part d'un garçon qui, un beau jour, a dit « la maison est à moi, c'est à vous d'en partir », etc. Je crois qu'aujourd'hui, la cause est entendue.
Et pour revenir à la question de Villiers, c'est intéressant parce que il a un discours qui est tout à fait intéressant, qui est cohérent, qui est assez vigoureux, mais ce que vous soulignez là, l'impossibilité dans laquelle il est de manifester ne serait-ce que la simple courtoisie à l'égard des élus du Front National dans une conversation préalable, du fait que ça risquerait de lui coûter sa place à la tête du Conseil...
Du Conseil général de Vendée. Où il fait peut-être des choses utiles, c'est possible.
Le problème, le fait est que ça ne sert à rien, cette attitude, puisque vous ajoutez que derrière, Mme Comparini dit pas du tout question de se compromettre avec un représentant de M. de Villiers. C'est-à-dire que là, il a ni le beurre ni l'argent du beurre, en quelque sorte. Il est perdant sur toute la ligne.
Non, parce qu'il sauve son précaré en Vendée. Comme je me suis permis de lui dire un jour, je dis, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire une carrière de notable local, ou est-ce que vous pensez véritablement, est-ce que vous croyez véritablement ce que vous dites?
Moi je trouve dommage, je vous le dis carrément, que cet homme-là se contente d'une carrière locale, parce qu'il a de la valeur, on l'entend parler, il est intéressant.
Il dit des choses fort intéressantes et fort justes, la preuve c'est que nous les avons dites généralement avant lui, quelquefois 2 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans avant lui. Là par exemple sur le Gauchot et le Régent, tout ça a été dit par mon ami Jean-Claude Martinez, qui a eu la primeur de ces découvertes. Mais pourquoi pas? Mais le problème, si vous voulez, il faut être cohérent. Moi, un jour, j'ai entendu à la radio Philippe de Villiers qui traitait littéralement Chirac de traître. Je ne dis pas, il ne traitait pas Chirac de personnalité qui se trompe.
Non, il a dit.
Ou qui est engagé dans une impasse. Non, de trahison, de traître. Trahison délibérée de l'intérêt national. Bon, je le vois le lendemain à Bruxelles. Je lui dis, Philippe, je vous ai entendu à la radio. Mais si vous croyez véritablement ce que vous dites, il faut à ce moment-là que nous...
Rejoignez vos camarades.
Il faut absolument là, que nous trouvions un terrain d'entente. La patrie est en danger. Bon.
Je crois, ce que je crois, c'est que Philippe de Villiers va redire cela à l'occasion de l'élection européenne. On va l'entendre avec des termes les plus sévères, plus impitoyables à l'égard du gouvernement Raffarin, à l'égard de Jacques Chirac. Mais en attendant, sauf en région Rhône-Alpes, ces candidats se présentent sur les listes de Raffarin et de Chirac. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour ce genre de comportement. Je poursuis cette stratégie.
Savez-vous, Bruno Gollnisch, que la semaine dernière, Denis Tillinac, dont vous connaissez les liens personnels avec M. Chirac, oui, déclarait sur France Inter que lorsqu'il entendait certains hommes politiques refuser d'inscrire nos racines chrétiennes dans la Constitution européenne, il pensait à Judas. Alors, il ne faut pas trop vous énerver, je pense, quand Villiers dit la même chose. Peut-être que c'est un peu comme de dire qu'il fait jour à midi.
C'est ça, on va avoir Mme Montfort, par exemple, ma collègue au Parlement européen, qui a d'excellentes idées par ailleurs, qui fait campagne aussi sur ce thème, mais qui, entre elle, a été élue sur les listes de Villiers, mais elle a rejoint l'UMP. C'est-à-dire qu'elle combat, effectivement, le fait que l'on n'inscrive pas les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution européenne, mais elle adhère au parti dont le leader s'est opposé à cette inscription. Mais encore une fois, je ne suis pas assez intelligent pour avoir ce type de comportement.
Bruno Gollnisch, merci. Je vais vous poser la dernière question qui s'impose. À quelle hauteur mettez-vous la barre d'un succès ou d'un échec en Rhône-Alpes, pour vous ?
Je ne pratique pas la méthode Coué, j'essaie d'être réaliste, je dirais tout point, au-delà de ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, est en soi un succès.
C'est-à-dire
18%. Moi j'ai obtenu 18%, et Jean-Marie Le Pen un peu plus de 19% à la présidentielle, et moi 18% à la dernière élection régionale, 98, qui était un très bon cru pour nous. Et Jean-Marie Le Pen presque 20% sur l'ensemble de la région. Je considère par conséquent qu'au-dessus de ces chiffres, c'est un succès. Mais j'espère, c'est vrai, j'espère que la prise de conscience aidant, que le ras-le-bol en quelque sorte d'un certain nombre de Français, le sentiment légitime de trahison, des sensibilités dont je vous parlais tout à l'heure, les souverainistes, les chasseurs, les régionalistes, etc., qui ne seront plus représentés, j'espère que nous allons avoir une très forte progression. J'espère même arriver en tête. J'ai présenté encore une fois ceux qui seraient les vice-présidents de la région si je l'emportais, et je crois que notre équipe est considérée comme crédible par la presse régionale. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Ben, si c'est pas le cas cette fois-ci, on va travailler pour que ce soit le cas la fois d'après.
Donc rendez-vous dans un mois.
Rendez-vous les 21 et 28 mars pour cette élection.
Dans un mois, c'est pas un mois, c'est trois semaines.
À peine un mois, oui, 21 et 28 mars pour cette élection. Mais il y a encore une question, je crois.
J'ai encore une petite question pratique d'une auditrice. Comment faut-il procéder pour être sur la liste des assesseurs ou des scrutateurs?
Il faut prendre contact avec vos candidats ou avec la liste, et à ce moment-là, on prend vos noms, et les candidats, la tête de liste, en l'occurrence Marine Le Pen, si vous êtes dans la région parisienne, envoie une lettre au bureau de vote en disant que vous êtes désigné comme délégué. Quelquefois, comme assesseur, il suffit, comme assesseur c'est la même procédure, mais on peut aussi être assesseur quelquefois simplement en se présentant à l'ouverture des bureaux de vote et en disant je suis disposé à être assesseur. Bon, quelquefois ça suffit. C'est mieux. On ne peut pas vous refuser. On ne peut pas vous refuser si vous avez été désigné par le candidat. Et quant à être scrutateur, n'importe qui peut l'être au moment du dépouillement.
Merci Bruno, à très bientôt.
Merci Serge.
J'espère que vous pourrez venir nous reparler des résultats. Vous viendrez accompagné de vos ministres.
J'ai dit ministre entre guillemets, parce que je suis de ceux qui ne veulent pas que la région se transforme en un instrument de destruction de l'État. Et c'est malheureusement souvent le cas.
Merci.
Oh,
qu'est-ce que cette belle musique, Patrick?
Nous écoutions Lyudmila Fedorova et j'ai le plaisir de dire à nos auditeurs de la région parisienne et d'ailleurs qu'ils peuvent qu'elle offre un concert gratuit avec Yuri Fedorov qui l'accompagnait au Bayan, c'est-à-dire l'accordéon de concert russe à l'instant. Donc ce sera dimanche prochain, 7 mars, à 16h, en l'église Sainte-Rosalie, 50 boulevard Blanqui. C'est juste en face du métro Corvisart, dans le 13e. Et puis...
Est-ce qu'ils vont chanter la Rosalie? Elle est malade du mal d'amour. Non, c'est pas...
Non. C'est de la musique ukrainienne. Ce sont des Ukrainiens et ils chanteront donc gratuitement des œuvres classiques et des chants sacrés. Et on trouvera par ailleurs leur disque en vente à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, métro Saint-Michel Notre-Dame, au cours d'une journée russe, parce que bon, les Ukrainiens, les Russes ne sont pas encore des étrangers complets. Et donc il y a une journée russe avec Vladimir Fedorovski, Vladimir Volkov, Jacqueline Doxois, et donc les disques des Fedorov, samedi 20 mars de 15 à 18h30 à la librairie France Livre. Yas Kazal.
Merci. Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelques minutes avec l'abbé Cellier pour nous parler de deux choses que les éditions Clovis viennent de publier. Bah, Fidélitaire d'abord, ça on a l'habitude, c'est tous les deux mois, parce que c'est une revue bimestrielle.
C'est une revue bimestrielle qui paraît tous les deux mois.
C'est ça. Si c'était deux fois par mois, ça serait une revue...
bimensuelle.
Bravo. C'est très bien. Et puis, un bouquin formidable, alors que j'ai lu, et qui est vraiment remarquable, c'est le dernier Anne Bernet, Saint-Grégoire.
Voilà. Alors tout d'abord, juste pour commencer, je donne quelques petites nouvelles de l'église Sainte-Thérèse de Compiègne.
Est-ce que vous avez eu des échos?
Voilà, donc je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont effectivement envoyé leur écho, un petit don, qui nous aide bien. Donc les travaux commenceront dans quelques jours, fin mars, les travaux commenceront, et donc se poursuivront un petit peu plus longtemps que ce que j'avais prévu, puisqu'ils se poursuivront jusqu'à octobre, parce que les entreprises se succéderont, et ça prend toujours un certain temps. Et donc, tout en remerciant ceux qui ont déjà aidé, bien sûr, je lance un appel à ceux qui peuvent encore aider pour nous aider à couvrir ces frais, hein, à ceux qui souhaitent et qui sont contents de voir s'ouvrir et rénover des églises plutôt que les voir se fermer, hein, dans notre France. Donc, ils peuvent envoyer des dons à Église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne Sélex. 60-202, Compiègne Sélex, pour nous aider à rénover cette église Sainte-Thérèse qui nous a été vendue donc par la mairie de Compiègne.
Bien sûr.
Je rappelle que nous avons été les premiers à parler en début janvier du film de Mel Gibson.
On a parlé un an avant vous.
La passion de.
Nous en avons parlé le 21 novembre 2002. Vous dites mieux.
Non, mais attendez, c'est sur l'arrivée, bien sûr. Bien. Donc, Monsieur Amish, donc qui nous donnait une interview dans ce numéro qui est d'ailleurs complètement épuisé parce qu'il a rencontré un vif succès. Donc elle vient de sortir son livre que nous ne serions que trop recommander, La Passion de Mel Gibson de A à Z, qui se vend pour le prix de 15€ et qui est disponible donc pour tous ceux qui veulent l'acheter chez Clovis, à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes, boîte postale 88 91 152 Étampes, téléphone 01 69 78 30 23 et à la librairie France Livre 6 rue du Petit Pont. Et monsieur Amish, qui a donc signé samedi, resignera pour tous ceux qui n'auraient pas pu venir, il resignera son livre en même temps que la journée russe, donc le samedi 20 mars. Toute l'après-midi, il sera là pour signer son livre. Donc, n'hésitez pas à aller à la librairie France Livre pour avoir ce livre qui est très bien fait sur ce film qui rencontre un succès qui est, je trouve, encourageant.
C'est
pour
très
une fois qu'on gagne un petit peu, ça c'est quand même...
C'est un livre très intelligent. Je parle du livre d'Amish parce qu'il est présenté sous la forme d'un dictionnaire.
Un abécédaire.
Voilà. Et c'est bourré d'anecdotes. C'est très vivant, très facile à lire. Très édifiant, et c'est vraiment un livre remarquable qui a été fait dans les conditions...
Du direct.
Absolument, des conditions de rapidité remarquables aussi.
Je donne les références, Serge.
Oui, ben ça y est, monsieur l'abbé vient de les donner. Si vous voulez répéter ce qu'a dit monsieur l'abbé, je viens, mais enfin...
Édition Sicre,
voilà, et s'ils veulent aussi l'acheter
directement. Édition Sicre, 22 rue Didot, Paris 14e, ISBN 2-914-352... 61-1. Ça, c'est pour nos nombreux auditeurs de Tokyo ou de Lyon qui ont des libraires de mauvaise volonté.
Voilà. Alors donc, ce numéro fidélitaire, il est comme d'habitude en plein dans l'actualité, puisque vous parlez des contradictions de la laïcité scolaire.
Donc de l'affaire du voile, hein.
Oui, c'est grosso modo. Alors, il y a un dessin de Kong qui est irrésistible, comme toujours d'ailleurs, qui montre une petite beurette voilée à l'école qui se tourne vers sa copine qui n'a ni voile, ni croix, ni rien du tout, et qui lui dit « Tu devrais quand même pas afficher aussi ouvertement ton athéisme. » Ce qui est... Ou ton laïcisme, c'est athéiste ou laïcisme ?
Ton athéisme,
voilà. Ouais. Bon, alors...
Donc c'est un numéro qui à la fois parle de l'affaire du voile, montre que cette affaire du voile est une pure contradiction, une pure fantasmagorie, et en même temps rappelle, puisque nous sommes en 2004, qu'il y a un siècle, il y a eu des dizaines de milliers de religieux et religieuses enseignantes qui ont été violemment expulsés, des milliers d'écoles fermées, spoliées, volées. Hein, et que donc cette laïcité ouverte, tolérante, d'accueil, d'amour et toutes sortes de fariboles de la même farine ne sont que des mensonges éhontés. Et donc pour montrer qu'effectivement il faut à la fois s'enraciner dans l'histoire, ce qu'est la laïcité, c'est une lutte contre le christianisme en France et le catholicisme en particulier, et que nous avons, je dirais, un discours de Matamor sur le voile. On va voir ce qu'on verra, et je pense que nous pouvons prédire sans difficulté qu'on ne verra rien du tout et que le voile restera exactement en l'état. Il n'y aura aucun changement, mais nous l'analysons, nous en montrons un certain nombre de choses. Nous avons dans ce même numéro de Fidélitaire, donc le numéro 158 de mars, nous avons une évocation de Bossuet. C'est quand même le 400e anniversaire de ce grand évêque, de ce grand écrivain, de ce grand prédicateur, qu'il faut quand même pas oublier dans nos gloires nationales. Au 19e siècle et même au début de ce siècle, il était étudié en classe. Aujourd'hui, il est totalement disparu. C'est plutôt le Marquis de Sade qu'on étudie carrément. On m'avait même raconté un élève qui était venu à l'épreuve de français avec une liste qui ne comprenait que des extraits du Marquis de Sade. Pourquoi pas? Je pense que Bossuet...
dans les collèges catholiques, monsieur Labbé, nous allons en parler tout à l'heure.
Surtout, si je puis dire, hélas. Et puis, il y a également donc le point, un petit point sur nos relations avec Rome. Il y a un article éditorial de l'abbé de Cacré et une petite présentation du dernier travail donc que je vais présenter très rapidement de Monseigneur Felet. Donc, la revue Fidélitaire, abonnement découverte pour ceux qui ne la connaîtraient pas, de 33 €, bien sûr, toujours à Clovis, boîte postale 88, 91, 152 Étampes, ou à France Libre, ou dans toutes les bonnes librairies. Alors, justement, à propos de ses relations avec Rome, donc la fraternité, Monseigneur Felet, vient de sortir une brochure courte, ça doit faire 48 pages, je pense, mais importante, qui s'appelle « De l'écuménisme », sinon Yvonne va m'engueuler si je dis « l'écuménisme ». « De l'écuménisme », en hommage à Yvonne et aux Français, tout simplement, à l'apostasie silencieuse. Donc, l'apostasie silencieuse est une expression de Jean-Paul II qui parle de cette Europe dans laquelle se déroule une apostasie silencieuse, et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Donc, un travail qui a été envoyé à tous les cardinaux, qui vient d'être envoyé à tous les prêtres de France par la lettre à nos frères prêtres, et que Monseigneur Felet présentera à la mutualité le lundi 22 mars à 20h ou 20h30, enfin lundi 22 mars au soir, il présentera cette brochure sur la question écuménique, c'est-à-dire sur les problèmes doctrinaux qui amènent finalement, parce que cette apostasie silencieuse, elle ne naît pas de comme ça, si on apostasiait, c'est vraiment parce qu'il y a un problème doctrinal sous-jacent depuis 40 ans dans l'Église, et que c'est analysé dans cette petite brochure. Donc je donne rendez-vous à tous nos auditeurs le lundi 22 mars. Il y aura donc cette réunion à la mutualité, dans la grande salle de la mutualité, et normalement, je n'en dis pas plus, mais dans quelques jours, nous pourrons l'annoncer, il y aura une surprise qui est en rapport avec ce que nous avons dit un petit peu auparavant.
Donc, alors, 5 minutes de suspension, si vous voulez, ou 2 minutes, voilà. Et puis on parle rapidement du livre sur Saint Grégoire, et ensuite j'en ai la parole au docteur Patrick Cohen, qui est venu nous raconter des choses assez effrayantes d'ailleurs. Bien, monsieur l'abbé, au lieu de lire des choses qui sont vraiment pas faites pour vous...
que vous m'avez proposé, donc c'est, bah vous, oui, qui, c'est sûr, vous qui me corrompez.
Je suis le complice et corrupteur. Il est très très bien ce livre d'Anne Bernay.
Comme tous les livres d'Anne Bernay, d'ailleurs.
Oui, mais celui-là, il est particulièrement intéressant à lire maintenant parce que on a l'impression de lire quelque chose qui se passe aujourd'hui.
Disons, les circonstances dans lesquelles vit Saint Grégoire, donc le moine Grégoire au départ de sa vie, sont effectivement le chaos sur l'Europe, bouleversé par des barbares venus d'ailleurs, allogènes, qui apportent à la fois...
Par la lumière, mais...
Voilà, à la fois, qui apportent à la fois le chaos économique, militaire, et l'hérésie, ou le paganisme, et la persécution contre le christianisme, un pouvoir déficient, déliquescent, qui ne fait pas son travail, qui abandonne les populations, qui souvent se retourne contre les populations au lieu de les soutenir, et au milieu de tout cela, quelle autorité morale et finalement politique et militaire, l'Église, qui essaye de faire son devoir. Donc Saint Grégoire, mais en même temps une Église qui elle-même est traversée de difficultés, de remises en cause, etc. Et Grégoire est donc élu, il est moine, après avoir fait une carrière, il a été apocrisaire, c'est-à-dire nonce auprès de la cour de l'empereur à Constantinople, mais il est élu dans un moment de catastrophe, de chaos total à Rome, puisqu'il y a une épidémie foudroyante qui est en train de détruire les derniers survivants de cette Rome affamée, abandonné, trahi. Et Saint Grégoire est un homme qui va régner 12 ans, malade comme un chien. Il a un ulcère en estomac qui ne cesse de progresser, un ulcère de l'estomac qui cancérise. Et donc il passe la moitié de son temps au fond de son lit. Il passe des journées entières, voire des semaines entières sans pouvoir sortir de son lit. Et malgré cela, il va donner une impulsion extraordinaire à l'Église et à l'Europe. Car il est celui qui est... C'est l'introducteur dans le Moyen-Âge. On quitte l'Empire romain qui n'existe plus, qui est finalement... Et on rentre dans... Il aura cette conviction qu'il faut christianiser ces barbares.
C'est l'enfanteur de l'Occident chrétien.
Voilà. Et en même temps, je dirais un homme extraordinaire, parce que c'est un homme qui pense que la fin du monde est arrivée. Que les signes qu'il voit autour de lui, parce qu'il y a évidemment des tremblements de terre, il y a des épidémies, il y a des guerres, il y a tout ce qui est décrit par notre Seigneur. Il dit donc la fin du monde est arrivée, voilà. Mais il se dit, que dois-je faire? Mon devoir d'État. Je suis là, je dois faire mon devoir d'État. Il me fait penser à cet épisode qu'on raconte, je crois, du roi lépreux. Il me semble que c'est un épisode dans lequel chacun est interrogé. Ils sont en train de jouer avec un jeune camarade. Qu'est-ce que tu ferais si c'était la fin du monde? Ils sont en train de jouer au volet. Alors l'un, j'irai me confesser tout de suite. L'autre, je me mettrai en prière, etc. Et il dit, moi, je terminerai la partie parce que c'est mon devoir d'État de maintenant. Et je crois que, Saint Grégoire ne joue pas au volet, en l'occurrence. Il est pape. Il pense que tout va finir dans quelques instants, mais pour l'instant, notre Seigneur lui demande de faire tout ce qu'il doit faire comme si le monde devait durer encore bien longtemps, ce qui a été le cas en fait, et il a fait tout, et il a été le passeur de cette civilisation romaine chrétienne vers la civilisation médiévale, toujours chrétienne, mais ayant vécu la barbarie et ayant surmonté cette barbarie pour reconstruire une Europe différente, mais avec les mêmes racines et les mêmes valeurs.
Et ça fait un livre très 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 intéressant à lire, très facile à lire, enfin comme tout ce qu'écrit Anne Bernay,
mais disons par rapport au Saint Jérôme, où la personnalité de Saint Jérôme est une personnalité plus contrastée, plus difficile, plus pénible à certains égards. Saint Grégoire est un homme de grande noblesse, un chef, mais en même temps une personnalité plus attachante de naturellement, plus agréable, qui un homme, c'est assez intéressant au point de vue intellectuel, car Anne Bernay manifeste que d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue de la latinité, d'un point de vue de, ce n'est pas un homme comme saint Augustin ou saint Ambroise, mais elle montre que c'est un homme qui a pensé à l'avenir, qui est créateur des futures langues romanes, qui est un homme qui s'adresse au public de son temps pour essayer de lui donner les meilleures richesses et qui sera très lu au Moyen-Âge, plus que saint Ambroise et peut-être même plus que saint Augustin, parce que il a un mode de pensée, une expression qui est plus proche des réalités.
Et donc, puis on voit bien à quel point l'idée d'un pape médiatique qu'on caresse aujourd'hui est une chose idiote et inutile, parce que cet homme qui, au fond de son lit, dévoré de souffrance, va avoir un pouvoir, une influence temporelle extraordinaire.
Voilà.
Sans télévision et
voilà.
Pour cause.
Si on pense au pontificat actuel, où donc le pape Jean-Paul II a eu cette volonté d'aller de courir le monde pour aller à la rencontre de l'Église, qui n'est pas une idée en soi totalement sotte, mais par ailleurs, je dirais, il faut quand même se rappeler que le pape est pape parce qu'il est évêque de Rome. C'est d'abord l'évêque de Rome. Et là, ça, Saint-Grégoire a cette profonde conviction. Saint-Grégoire est un homme de l'aristocratie romaine. Or, 95% de l'aristocratie romaine a quitté Rome pour rejoindre Constantinople, pour rejoindre le grand centre de pouvoir. Et il est de l'unique famille qui est restée à Rome par attachement à la Rome impériale et surtout par attachement à la Rome de Saint-Pierre. Et il a cette conception profonde de l'évêque de Rome, vicaire du Christ, au service de l'Église universelle, dans le respect de ses frères, puisque c'est lui qui se nomme serviteur des serviteurs de Dieu, et en même temps qui aura ce respect vis-à-vis des autres patriarches, mais en leur rappelant quand même la primauté institutionnelle dans l'Église, institutionnelle et théologique dans l'Église de Rome, en les respectant, respectant ce qu'ils sont, respectant leurs privilèges, leurs pouvoirs, mais en même temps en défendant Mordicus, au risque... Il n'a pas été finalement persécuté, mais enfin, plusieurs de ses prédécesseurs avaient été persécutés par l'empereur pour avoir défendu le pouvoir de la Rome pontificale. Et lui, il le fera avec le même courage et il donnera cet exemple. Il est évident que les papes du Moyen-Âge s'inspirent de Saint-Grégoire et que la grande réforme du XIe siècle, la réforme de Saint-Grégoire VII, c'est pas appelé Saint-Grégoire VII par hasard. Il a voulu reprendre le programme de Saint-Grégoire. Et donc, on trouve là, effectivement, à la fois une belle page de l'histoire de l'Église, une belle compréhension de ce qu'est la papauté catholique, et en même temps, je pense, c'est ce que j'ai dit dans mon petit éditorial du catalogue France Livre, une grande leçon d'espérance. Une grande leçon d'espérance chrétienne, même si la situation paraît désespérée, Dieu ne meurt pas, disait Garcia Moreno. Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? Et il est là pour nous aider. Et si nous le lui demandons, il peut envoyer l'homme extraordinaire. Il nous a envoyé, c'est pas Saint-Grégoire, mais il nous a envoyé Monseigneur Lefebvre, qu'on méritait certainement pas, comme flambeau dans ces ténèbres. Et il peut nous envoyer un pape qui va rénover l'Église. Et c'est ce que nous devons lui demander et espérer. Voilà, donc Saint-Grégoire
d'Anbernay.
Donc on peut, je redonne les de quoi le commander. On peut le commander, donc il fait 22 euros, n'est-ce pas? On peut le commander à Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Téléphone 01 69 78 30 23. Et bien sûr, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement.
Merci, monsieur l'abbé. Je me tourne. On posera des questions tout à l'heure.
Alors, allez-y. C'est simplement, que devient votre livre, Le Dieu Mortel, monsieur l'abbé?
Eh bien, il est toujours disponible. Enfin, c'est un livre de 94. Bon, la vie avance, mais il est toujours disponible pour tous ceux qui le souhaitent. Mais voilà, les livres passent, je dirais, et d'autres livres. Et je préfère qu'on achète le Saint-Grégoire, qui est une nouveauté. Mais si les gens veulent acheter Le Dieu Mortel, je les en félicite. Mais enfin.
Et puis, un cocorico. Daniel Amiche est en ce moment invité dans l'émission de Ruquier à la télévision. Et Pierre Bénichoux a cité Radio Courtoisie.
Incroyable.
La gloire.
Et ben Radio Courtoisie cite Pierre Bénichoux, donc comme ça on est quitte. Docteur Patrick Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Alors docteur, on parlait d'hommes de courage et d'hommes de dévouement et d'hommes malades qui luttaient. Je crois que vous êtes un très bel exemple de ça, puisque je rappelle qui vous êtes. Je vous ai déjà reçu dans cette émission.
Oui, bien sûr.
Vous êtes médecin.
Chirurgien.
Et vous avez contracté le sida à la suite d'une intervention, d'une blessure au cours d'une intervention.
En 83.
Et depuis, donc ça fait maintenant 20 ans, et loin de vous laisser, de vous abandonner à la souffrance qui est la vôtre et qu'on imagine très bien quand on vous voit, on voit bien à quel point vous êtes atteint et à quel point vous pouvez souffrir. Vous vous battez comme un beau diable, si j'ose dire, en présence de monsieur l'abbé Cellier qui vous donnera l'absolution dès que je me tairai.
Ce qui n'est à dire pas tout de suite.
Pas tout de suite. vous battez comme un beau diable pour faire connaître votre vérité sur cette affaire. Et vous me téléphonez régulièrement. Je vous ai demandé de venir ce soir pour faire un point sur cette question, qui est une question absolument énorme et dramatique, c'est la question des effets
de la contamination
nosocomiale par le sida.
Le sida, on parle du sida au Botswana, on parle du sida en Tanzanie, le sida des soignants, silence radio. Il faut savoir que le métier de chirurgien, comme je le lis dans cet article, est un métier où l'on est plus menacé par la contamination, par le virus du sida, que dans l'homosexualité non protégée. C'est dire...
C'est un article qui est publié par...
Je l'ai photocopié, je vous l'ai laissé. C'est publié par ABC News. On m'a dit c'est pas sérieux.
Pas sérieux, ABC News.
Non, j'ai téléphoné et on m'a dit ça n'a peut-être pas été édité, parce que vous savez, sur Internet, on édite n'importe quoi. Alors j'ai téléphoné à ABC News. Je leur ai demandé est-ce que cet article vient de chez vous. On m'a dit, écoutez, donnez-nous un quart d'heure, on va vous répondre. Et un quart d'heure plus tard, ils m'ont dit, ça vient chez nous. Ils m'ont dit, pourquoi? Vous avez un problème? Ben, j'ai dit, oui, je trouve que le chiffre de 39 000 à 45 000 soignants contaminés aux États-Unis me paraît absolument monstrueux. Il m'a répondu, moi, je sais pas, je suis journaliste, je suis pas médecin.
Et donc je rapporte les chiffres qu'on me donne.
Et j'ai dit, mais ils sont vrais? Il m'a dit, mais vous savez ce que c'est qu'une agence de presse? J'ai dit, oui, on recoupe les informations. Il m'a dit, mais oui monsieur, on recoupe les informations. Et si on vous donne le chiffre de 39 000 à 45 900, c'est que la branche la plus basse, la courbe la plus basse était à 39 000 et la plus haute était à 45 900.
Alors, ça veut dire qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle...
En 1999.
En 1999, c'est-à-dire il y a 5 ans,
ouais.
Était identifié
oui.
Entre 39 000 et 45 000
soignants.
Soignants, c'est-à-dire médecins, chirurgiens, infirmières.
Infirmiers,
etc.
Balayeurs, tout ce que vous voulez. Tout...
Atteints du sida.
Du sida.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Oui. Ils ne sont pas idiots. Ils connaissent les contaminations sexuelles comme en France.
Alors, est-ce qu'on peut, à partir de ça, oser une évaluation en France? Parce qu'en France, il y a environ, disons pour simplifier, un cinquième de la population des États-Unis.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on peut, sans exagérer, supposer qu'il y aurait, à l'heure actuelle, disons entre 7 et 9 000 soignants contaminés en France?
Probablement un peu plus. Les chiffres paraissent effrayants. J'ai à la disposition de toute personne qui ne me croirait pas, je donnerai mon adresse, mon numéro de téléphone. Je pourrai joindre le document à la personne qui douterait de mes dires.
Bon. Quelle est l'attitude des autorités sanitaires en France en face de cette hypothèse?
L'autruche.
Vous les avez informés?
Je les ai informés par courrier. On vous répond toujours, droit de l'homme, on ne peut pas tester un chirurgien contre son gré. C'est une atteinte intolérable aux droits de l'homme, tester un malade.
Mais laisser un malade se faire opérer par un chirurgien atteint du sida avec le risque de contamination, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme. Donc ça, c'est autre chose.
Moi, je le pense.
C'est-à-dire que le test, il intervient de toute façon, parce que si le malade s'en tire avec le sida, le médecin est tout de suite testé. Là.
Bien sûr.
Quel est le nombre de risques d'accidents en cours d'opération pour un chirurgien?
Écoutez, alors ça, je peux vous donner des chiffres précis. Un chirurgien se pique environ une fois par semaine. Et alors, ça dépend des spécialités. En chirurgie cardiaque, c'est deux fois par jour.
Alors, quand il se pique, ça veut dire que d'une part, il risque de se contaminer si le malade...
Si le malade est contaminé, il risque de se contaminer.
Et si lui est contaminé,
il peut contaminer. Il risque de contaminer.
Parce qu'il y a un échange sanguin qui se passe au moment de la piqûre.
Exactement. Vous piquez, vous êtes déjà piqué le doigt, ça saigne. Un champ opératoire, c'est sanglant. Donc, vous avez automatiquement, quand il y a une plaie au père opératoire du chirurgien, il y a contact entre le sang du patient et le sang du chirurgien. Et le virus va dans un sens comme dans l'autre.
Quand vous parlez de ça à vos confrères, quelle est leur réaction ?
De me taire.
Ils vous demandent de vous taire.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, si vous voulez, rien n'est prévu pour la reconversion des gens contaminés. Vous comprenez, un chirurgien, c'est quand même un objet qui coûte cher. Ça a été long à former, ça a coûté cher à former. Lui dire du jour au lendemain, vous ne pouvez plus opérer, et c'est malheureusement la seule solution. Ça va coûter cher, parce que ces gens se sont dévoués pour s'occuper de la société. Bon, ils sont malades. C'est à la société de s'occuper d'eux. Et ça n'est pas
voulu. Que demain, vous décidiez de reprendre votre activité professionnelle. Est-ce qu'il y aurait un moyen de vous en empêcher d'une façon qui respecte à la fois les droits de l'homme et la légalité ?
Monsieur de Becquet, demain, ayant dit à la radio que j'avais le sida, je prends mon bistouri et j'opère, aucune loi ne me l'interdit. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Rassurez-vous, je ne le ferai pas.
Oui, je sais bien que vous ne le ferez pas, parce que ça fait 20 ans que vous bagarrez là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a quand même des médecins. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question plus exactement, est-ce que vous pensez qu'il y a des médecins, à l'heure actuelle, qui, se sachant atteints, des chirurgiens qui, se sachant atteints, continuent d'opérer ?
Alors, pour le virus du sida, j'en suis sûr, mais enfin, je ne peux pas vous donner un nom. Pour l'hépatite C, je ne donnerai pas de nom, mais je pourrais vous citer de noms, je dirais, de princes de la médecine. Bon, ils se sont piqués, ils n'ont pas à avoir honte de s'être piqués, ils se sont contaminés. Mais il ne faut pas qu'ils continuent, parce que j'avais amené des documents, mais enfin, je pense qu'on me croira sur...
Sur parole. Façon, je peux témoigner que tout ce que vous dites est appuyé sur des documents, puisque je les ai vus, pas cette fois-ci, mais en général, quand vous m'appelez, vous me donnez les coordonnées des documents, et donc vous n'êtes pas quelqu'un qui parle en l'air.
Je parle pas.
La question est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grave pour ça. Au fond, vous posez un problème, mais est-ce que vous avez une idée de solution ? Vous avez évoqué la reconversion des chirurgiens atteints. Est-ce qu'il faudrait penser, par exemple, à créer, je ne sais pas, une espèce de fonds pour assurer aux chirurgiens qui arrêteraient d'intervenir un maintien de leur,
niveau
de vie ?
Bah oui, ça me paraît. Si vous voulez, moi, mon problème est différent. Moi, j'étais salarié, donc je continue à toucher mon salaire. J'ai été indemnisé, si vous voulez. Alors actuellement, il y a des problèmes parce que je me suis contaminé en mai 83 et le sida n'est reconnu par la loi qu'en novembre 83. Alors,
donc vous avez eu une maladie qui n'existait pas.
J'ai eu une maladie qui n'existait pas. Et pourtant...
Quand on vous voit, on a quand même l'impression qu'elle existe un petit peu, il faut dire.
Elle existe. Enfin, ça, on ne conteste pas. On dit, oui, c'est un accident de travail, vous êtes contaminé par le sida. Ah oui, mais légalement, ça n'existait pas. Alors vous dites, Uburois. Mais enfin, on ne demande pas de rente d'argent. Je n'ai pas de problème financier particulier. Mais enfin, si vous voulez, je suis chirurgien, je suis médecin, je crois être quelqu'un d'honnête, et je considère que c'est mon devoir d'alerter les populations, enfin le public à l'échelon mondial, parce que c'est un problème mondial, hein, c'est pas la France. Les publications, j'en ai qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Espagne, enfin c'est qui viennent de du Canada, parce qu'il y a récemment au Canada une jeune femme qui s'était contaminé en 90, qui en avait parlé à son patron de l'époque, qui lui avait dit en gros, taisez-vous et continuez. Cette femme a pris du galon, est devenue professeure de clinique, dont titulaire de chaire, donc au sommet de la hiérarchie. En juin 2003, vous voyez, c'est pas très ancien, elle a demandé à être mise en congé, et 2 mois après, elle était morte. Elle était morte, et 6 mois plus tard, un médecin qui était au courant a prévenu l'administration de l'hôpital que cette dame était morte du sida. Alors, vous voyez l'affolement. Cette dame avait opéré 2600 enfants. On n'avait pas la liste complète des enfants. Il faut croire que c'est dangereux d'opérer en ayant le sida, car il y a eu une campagne radiophonique télévisée en demandant aux malades de bien se faire connaître, et il y a eu pour les 2600 malades opérés, il y a eu 12 000 appels téléphoniques à l'hôpital Sainte-Justine. Le Premier ministre du Québec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était à Davos, a pris la parole, a dit que c'était effectivement fâcheux, qu'il fallait faire quelque chose. La confusion la plus totale. Et cette nouvelle qui est pourtant importante, qui est arrivée à l'agence France-Presse, a été bloqué, n'a pas dépassé l'agence France Presse. Les médias français n'en ont...
Ça a été annoncé nulle part, effectivement.
Non.
Voilà, docteur, je vous remercie. Vous avez fait un point de cette affaire. Je vois pas très bien comment ça pourra en rester là plus longtemps. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, un grand média s'occupe de parler de ça. Je vais vous demander de donner vos coordonnées pour que les confrères puissent éventuellement vous contacter.
D'accord. Alors, Patrick Cohen... 20 chemin 9, Chambourcy, 78-240.
Et vous avez un téléphone où on peut vous joindre?
Oui, 01-39-79-40-03 ou 01-30-74-43. 37.
Merci, docteur Patrick Cohen. Je rappelle l'adresse, 20 chemin 9, Chambourcy, 78-240, et les téléphones 01-39-79-40-03 ou 01-30-74-43-37. Merci, et nos voeux pour votre œuvre et notre admiration pour le courage que vous montrez.
Écoutez, je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir accueilli.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 20h bientôt.
Et un auditeur conclut, j'ai été opéré récemment, l'anesthésiste m'a posé beaucoup de questions, m'a délivré des informations sur les risques à courir et m'a demandé de signer un document attestant que ces informations avaient été données. S'il m'arrive encore d'être opéré, je demanderai à l'anesthésiste d'attester sur l'honneur qu'il n'a pas le sida, de même que pour le chirurgien.
Mon cher Patrick, il nous reste 5 minutes avant de donner la parole à Nicolas Bay, qui est tête de liste MNR en région parisienne, c'est ça ? En Ile-de-France. Mais avant, je voudrais que vous nous donniez, vous donniez à nos auditeurs, parce que moi je l'ai déjà lu, toutes les bonnes raisons qu'ils ont de lire le Libre Journal, qui est vraiment...
Le Libre Journal, imprimé.
C'est un excellent journal.
Voilà, merci, c'est gentil.
Numéro 316 qui vient de paraître. Mais Serge, je vais vous prendre à contre-pied parce que sur ce numéro 316, je suis obligé de vous interviewer parce que je pense que la plupart des lecteurs, des abonnés, même des auditeurs vont tomber de leur haut en découvrant dans ce numéro 316 deux pages de pornographie et pas du Marquis de Sade comme nous en parlait la Bételé tout à l'heure ou du Restif de la Bretonne, mais la pornographie la plus pesante, la plus déprimante, la plus crade, on dit. Bonsoir docteur.
Mais mon cher ami, ça, c'est au programme de 4e de lycée et collège, moi j'y peux rien, si vous voulez que je fasse, c'est pas moi qui décide, c'est par exemple au collège Albert Camus de Rosny-sous-Bois ou dans un collège religieux, pardon monsieur l'abbé, on a imposé
prétendu religieux.
Prétendu religieux, oui, catholique, prétendu catholique. On a imposé la lecture de textes. Il y a un des textes qui est les baisers des autres. Et, alors, on a donné à ces enfants de quatrième un texte en toutes lettres, avec les mots entiers. Et moi, pour publier le texte qui est soumis à des enfants de quatrième, je me suis quand même senti obligé, par respect pour nos lecteurs, de remplacer certains mots par des points de suspension.
C'est-à-dire d'en donner une version moins hard, crade, que celle qui est imposée, c'est répétons-le, à ces élèves de 4e de lycée catholique en province. Ça leur est imposé, ça n'est pas une façon de parler, c'est-à-dire que quand les parents rétrogrades et réactionnaires s'en offusquent et vont protester auprès de la direction de l'école, on les envoie promener avec une certaine brutalité. Alors, je n'en dis pas plus, je laisse nos lecteurs découvrir ce sujet. J'en cite quelques autres. Nous revenons sur l'affaire Le Ribot. Nous avons deux pages de deux auteurs différents, très compétents l'un et l'autre, sur l'affaire Le Ribot, qui sont passionnantes. Au Jockey Club, notre divin marquis s'est réconcilié avec Stéphane Bern, c'est quand même une nouvelle qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, voilà, tous les détails dans le libre journal. Et puis, bien entendu, nous consacrons trois pages à la passion, même si, comme l'abbé Céliel faisait remarquer tout à l'heure, nous avons été les premiers à en parler en France et même à en faire notre une. Nous avons la coquetterie pour une fois. On peut bien se permettre de publier en vis-à-vis notre une du 21 novembre 2002 avec la passion à la une et la une de match qui s'est décidée le 19 février dernier. Et ça illustre un prolongement de notre agréable querelle, mon cher Serge, sur l'avenir de ce film en France. Donc trois pages sur la passion. Et puis, bien entendu, deux pages, comme d'habitude, de François Brignot, une signature historique de la presse patriotique. Voilà ce qui fait, avec tout ce que je passe sous silence, ce qui fait un numéro particulièrement intéressant, donc dont on peut consulter des extraits gratuitement sur le site.
Pas celui-là.
Non, pas encore, mais dans une ou deux semaines, on pourra en consulter des extraits sur le site France Courtoise. Info. Si on veut donc ce numéro comme un spécimen, numéro 316, on envoie un carnet de timbres. Et si on a enfin compris, depuis le temps que je vous le dis, qu'il faut s'abonner pour un an, trois numéros de 24 pages entièrement rédactionnels par mois, on envoie la somme dérisoire de 110 euros.
Grotesque.
Ah, bon, on peut envoyer plus si on se rend compte que c'est pas suffisant, mais nous acceptons, nous abonnons à partir de 110 euros pour un an, donc l'ordre et l'adresse.
Et nous récompensons la persistance en faisant le réabonnement à 100 euros quand même. Oui,
bien sûr.
C'est là, persévérare, pas diabolicum du tout.
Donc, l'ordre et l'adresse, c'est SDB, 4 place Franz Liszt, 75 010, Paris.
Et je voudrais remercier Gérard Marin qui, ce matin, dans son émission, a parlé de l'article que le général Gallois a publié dans le numéro 315 du Libre Journal. Et alors ça, je dois dire, le résultat des émissions de Gérard, c'est stupéfiant. Le téléphone a littéralement fondu sous les appels d'auditeurs qui voulaient lire l'article absolument remarquable du général Gallois, paru dans le numéro 315 et qui s'intitule Immigration, un désastre national.
Numéro 315. Pendant qu'on y est, Serge, vous me remettez en tête un coup de téléphone de Jean-Pierre Perroncet-Lugoz, le grand reporter du Monde que nous avons reçu il y a 15 jours. Il m'a téléphoné cet après-midi, bon je le dis, incidemment, c'est pas des secrets, on trafique rien, pour savoir à quelle adresse vous envoyez le livre de votre ami Alexandre Derval qui vient de paraître aux éditions des Certes et qu'il préface. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais eu autant de réactions à une émission ou à un article qu'après sa venue il y a 15 jours dans cette émission. Les auditeurs l'ont peut-être entendu de rechef hier soir dans l'émission de Philippe de Saint-Robert. Il est également enchanté de la recension que vous avez faite de son livre dans le Libre Journal. Et en tout cas, il m'a chargé de vous remercier, et je n'hésite pas à le faire publiquement, pour cette émission il y a 15 jours, parce qu'il a eu lui aussi une avalanche de lettres et de coups de fil qui lui ont fait grand plaisir pour, rappelons-le, son livre « Traversée de la France » aux éditions Bartilla.
Bah, tout le monde sont contents, c'est formidable. On va essayer de rendre contents. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voudrais dire quelque chose parce que on a plusieurs messages qui contredisent tout à fait celui qu'on avait reçu tout à l'heure. Monsieur Ami, je ne sais pas, c'est Chéru qui est ce soir, où Radio Courtoisie s'est fait traiter de radio antisémite.
Oui, mais je crois qu'on a dit qu'elle avait été citée, on n'a pas dit qu'elle a été citée en bien.
Mais si, j'ai dit c'est la gloire. Maintenant,
voilà, c'est la gloire.
Mais c'est la gloire,
oui,
quand même,
Victoria. Oui, mais ça, je vous signale que voilà. Ça, c'est une imputation calomnieuse, et je pense que M. Ruquier va avoir à en rendre raison.
Ben, j'espère, oui.
Voilà.
N'est-ce pas, Jean?
Ah ben, Jean fera ce qu'il voudra, mais si jamais mon nom a été cité pour ça, je vais lui foutre un procès au cul dont il va se souvenir pendant un moment, le petit Ruquier. Ça, il peut compter sur moi. Faut dire que le procès sera pas la seule chose qu'il aura à cet endroit-là. Mais passons à d'autres considérations.
Et on peut demander à Monsieur l'abbé aussi de nous redonner l'adresse de l'église Sainte-Thérèse de Compiègne.
Ah, ça n'a rien à voir.
Et l'adresse de
l'abbé, pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, l'abbé a ouvert son cartable en 3 centièmes de seconde chrono.
Voilà. Alors, donc, église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, 60-202, Compiègne, Sedex.
Très bien.
Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore nous avons une adresse physique, mais on ne peut pas recevoir le courrier. Donc, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne, Sedex, église Sainte-Thérèse.
C'est la gloire, effectivement, Serge, parce que, rappelez-vous, le Parisien libéré a fait état du défilé de tête de liste au régional sur nos antennes, et un auditeur de Versailles, après qu'on m'a beaucoup reproché à Versailles le passage de Monsieur Santini sur cette antenne, alors voilà, le Parisien n'est pas content, certains auditeurs ne sont pas contents non plus, en attendant, on en parle, et il paraît que sur Radio Libertaire, il n'est question que de vous.
Ah, c'est bien, je suis très fier. Vous en allez, monsieur l'abbé, du coup. Depuis que vous savez qu'on parle de moi sur Radio Libertaire, vous nous quittez. C'est bien, c'est courageux, ça. Au revoir, monsieur l'abbé, à bientôt. Nicolas Bay, enfin, je vais pouvoir vous donner la parole. Bonsoir. Je redoutais que l'abbé ne se maintint dans les lieux, parce qu'il parle beaucoup, lui aussi. Au revoir. Bien, alors vous êtes tête de liste MNR en Ile-de-France.
C'est exact.
Je suis obligé de vous poser cette première question parce qu'elle me paraît s'imposer. Quel sens donnez-vous à cette candidature?
C'est en effet la question essentielle, je crois. Le MNR a fait le choix, et là ça impose une petite introduction plus générale et pas propre directement à l'Île-de-France. Le MNR a fait le choix d'être massivement présent aux élections régionales du 21 mars prochain. Alors massivement présent, malgré des difficultés financières qui ne nous permettent pas d'être présents partout. Mais nous avons donc constitué 13 listes dans 22 régions et nous serons présents dans les régions les plus peuplées, donc ça représente 75% de la population qui aura la possibilité donc de voter pour une liste du MNR de Bruno Maigret. Alors pourquoi ces listes? Eh bien parce que le constat que nous faisons est simple. Il faut faire entendre la voix d'une vraie droite. C'est pas à vous que j'expliquerai quelles sont les idées et les valeurs d'une vraie droite. Il faut défendre les idées et valeurs d'une vraie droite qui ne sont pas défendues aujourd'hui par d'autres formations politiques. Et là, je peux revenir directement à l'Île-de-France en ce qui me concerne à ces élections régionales. D'abord, je pense que nous avons des idées à faire valoir qui ne sont représentées ni par les listes Laguiller, évidemment, Buffet, Huchon, etc., la gauche et l'extrême gauche.
C'est carrément pas la vraie droite, on peut le dire, sans prendre de risques.
Ni d'ailleurs par les listes Copé et Santini, qui sont représentants de la droite centriste. Quant à la fille de M. Le Pen, qui se présente pour le Front National, je ne suis pas sûr que nous ayons les mêmes idées sur bien des sujets. Je ne suis pas sûr que nos valeurs de référence soient les mêmes. Et c'est ce qui me motive d'autant plus à constituer cette liste du MNR.
Quelles sont les idées, justement, les valeurs principales que vous avez présentées au cours de cette campagne?
Alors, tout le monde s'accorde à dire que ces élections régionales ont un retentissement national. Et donc, on ne va pas s'enfermer dans les simples sujets de compétences régionales. Et nous allons donc traiter des sujets qui, tout en étant en rapport avec les questions régionales, ont une ont une place sur la scène politique nationale. Alors, nous avons choisi de faire campagne autour de quatre thèmes principaux. La défense de notre civilisation européenne et chrétienne face à l'islamisation. La revalorisation du travail, la liberté économique face au déclin actuel sur le plan économique, la priorité pour l'école de revenir sur sa mission première, puisqu'aujourd'hui l'école s'occupe de tout et de n'importe quoi, mais ne remplit plus sa mission principale qui est la transmission du savoir. Et enfin, et là c'est un sujet très régional et même propre spécifiquement à l'Île-de-France, c'est la question des transports. Je l'entendais tout à l'heure, c'est sur votre antenne, on ne circule plus aujourd'hui en Île-de-France. La gauche mène sur ce sujet-là une politique aberrante qui consiste à paralyser totalement les transports, à mettre tout l'argent dans des transports en commun qui sont en plus mal fichus.
Surtout qu'ils sont infréquentables et dans une insécurité. Tu sais. Ouais. Moi, je suis tout à fait partisan d'une politique de transport en commun, mais la première chose à assurer pour que les transports en commun fonctionnent, c'est la sécurité. Quand on entend Delannoy nous expliquer que bientôt le métro fonctionnera toute la nuit, comme de toute façon à partir de 20h les gens n'osent plus descendre dans le métro, le fait qu'il circule à 4h du matin, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que alors ça sera la jungle, quoi, purement et simplement.
Puis non seulement les transports en commun aujourd'hui ne sont pas sûrs, comme vous le dites justement, mais ils sont en plus pas fiables, parce qu'ils sont sur des infrastructures qui de 70 ans. On n'a pas rénové, je pense en particulier aux infrastructures ferrées, on n'a rien rénové depuis des décennies, et c'est ce qui fait que nos transports en commun ne sont pas fiables aujourd'hui en Île-de-France, comme d'ailleurs ailleurs en France, et puis ils ne sont pas propres, ils ne sont pas climatisés. Alors, là-dessus, la France a un retard considérable par rapport à ses voisins européens et occidentaux.
Nicolas Bay, fermez votre ceinture. C'est moi, Serge Nespas, qui suis chargé des questions désagréables. Alors, j'en pose une au nom des auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, parce qu'ils entendent votre voix juvénile, mais tous, loin de là, ne connaissent pas votre visage. Donc
pardon, je fermez votre ceinture, je comprenais. Attachez votre ceinture, vous voulez dire.
Oui. Son pantalon est fermé, mais il a une ceinture de sécurité sur son siège, donc je lui demande de la boucler, parce que je pose la question qui décoiffe.
Allez-y.
Alors on sait que Radio Courtoisie, vous écoutez Radio Courtoisie, que c'est une radio violente et agressive, bien que toujours courtoise. Donc, la question est la suivante. Quel âge avez-vous, Nicolas Bay? Et naturellement, le sous-entendu, il est le suivant. Tout le monde sait que le MNR a des militants encore plus connus que vous sur la région parisienne. Je pense à Monsieur Le Gallou, qui n'a toujours pas démissionné, que je sache. Je pense à ce sympathique médecin du 13e dont le nom...
Bertrand Robert.
Oui. Voilà. Donc, il faut quand même nous dire quel âge vous avez et pourquoi c'est vous qu'on envoie, peut-être pas à l'abattoir, mais disons, dans une bagarre un peu difficile.
Oui, alors, c'est effectivement, l'explication est très simple. Le MNR a fait le choix de présenter une tête de liste un peu atypique et, disons, pas très institutionnelle. On avait en effet l'embarras du choix parmi nos cadres politiques en Ile-de-France. On a un groupe d'élus sortants au Conseil régional. Il y a parmi eux des personnes de grande qualité qui auraient été parfaitement à même, et peut-être mieux que moi d'ailleurs, de mener cette liste en Ile-de-France. Mais la commission d'investiture du MNR, qui est présidée par Bruno Maigret, et les élus sortants ont fait ce choix, que j'incarne donc, et qui est de faire émerger une nouvelle génération politique, et puis d'incarner d'une façon un peu concrète l'avenir, puisque le MNR a pour objectif, vous l'avez bien compris, non pas de gagner les élections et de faire immédiatement un score, la situation ne le permet pas aujourd'hui, mais de tenir et de durer aujourd'hui pour gagner demain. Alors, la formule peut paraître un peu langue de bois, mais en réalité, je crois qu'elle est simple à comprendre et elle est essentielle. Il y a une situation aujourd'hui qui est bloquée en France, et je m'en excuse pour votre invité de tout à l'heure, mais je crois très franchement que le Front National n'offre aucune alternative aujourd'hui, parce qu'il fait des scores élevés aux élections, mais Yvon et Le Pen en particulier va à la compétition comme un sportif pour obtenir un bon score sans qu'il ne s'en suive jamais rien de positif sous aucune forme qu'il soit. Et là, il y a quand même une question à se poser, savoir s'il ne faut pas agir un peu différemment. Parce que le Front National peut expliquer en permanence qu'ils sont victimes d'un complot, que tout le monde leur veut du mal, mais enfin, quand ça fait 40 ans qu'on occupe la scène publique et qu'on n'a jamais été capable, malgré des scores très élevés, qui sont même historiques, je pense au score de la présidentielle, jamais été capable d'agir d'une façon concrète pour améliorer le sort des Français qu'on prétend défendre, il y a quand même de quoi se poser des questions.
Alors justement, sur les suites de l'élection, les suites de l'élection, c'est l'application d'un programme. Et dans ce programme, vous nous dites que vous avez inscrit la lutte pour la défense de l'identité chrétienne de la France face à l'islam. Alors, je vous dirais que la première question qui doit se poser chez nos auditeurs, c'est celle de savoir si le MNR qui est apparu, à tort ou à raison, c'est un autre problème, comme un mouvement plutôt éloigné de la tradition catholique, plutôt on a dit dès le début que c'était un mouvement païen, est le mieux placé pour défendre la tradition chrétienne. Mais ça, je vous laisse me répondre.
Oui.
Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est face à l'islam, par quels moyens ?
Alors, la première partie de votre question, on n'a pas présenté, et le MNR n'est pas apparu comme un mouvement qui serait éloigné de la tradition chrétienne, ou pire, qui serait considéré comme païen. C'est simplement l'anathème qu'a pratiqué à l'époque les dirigeants du Front National.
Non, je ne dis pas que c'est vous qui avez revendiqué ça. Je dis, en général, moi-même, quand j'ai été considéré comme faisant partie des félons, on m'a dit comment vous, Cato, vous pouvez soutenir un mouvement païen. Bon, moi, j'ai jamais remarqué que c'est vrai que... Je dois dire que Maigret n'a jamais insisté beaucoup sur le côté religieux de la cause politique, mais je n'ai jamais considéré que le MNR était un rassemblement de païens fanatiques qui buvaient du sang dans les crânes de leurs ennemis. Voilà, je vous pose la question.
Je vous confirme que ce n'est pas le cas. Cette idée comme quoi le MNR serait un ramassis de païens, elle a été développée au moment de la scission avec le Front National par les dirigeants du Front National, Le Pen trouvant que c'était le meilleur moyen de se débarrasser du problème que de l'éluder en pratiquant l'anathème. C'est pas la première fois qu'il faisait ça, donc il l'a fait. Ça n'a pour moi pas le moindre intérêt. Moi, je suis catholique, donc je me sens parfaitement en phase avec le MNR, parfaitement en phase avec Bruno Maigret, avec les dirigeants du MNR que je côtoie tous les jours. Et je crois que dans ces situations-là, il faut d'abord s'en référer aux actes et aux faits et aux discours. Le MNR a toujours été extrêmement clair là-dessus, la défense de notre civilisation européenne et chrétienne. Alors je m'empresse quand même de préciser qu'il ne faut pas, je crois, mélanger la politique et la religion. Précisément parce que le christianisme fait cette distinction entre le temporel et le spirituel que l'islam ne fait pas. Et je crois que... excusez-moi, je précise quelque chose. Si on s'oppose aujourd'hui à l'islamisation, c'est bien en tant que phénomène politique, pas en tant que phénomène religieux. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'empêcher les gens d'aller pratiquer leur religion librement, d'honorer leur Dieu comme ils le souhaitent. Le problème, c'est l'islamisation, phénomène politique, qui tend aujourd'hui à modifier notre organisation sociale et politique, à remettre en cause nos institutions, qui sont à la fois nos institutions républicaines et laïques, mais qui, bien au-delà, c'est l'ensemble de notre organisation, de l'ensemble de ce qui fait aujourd'hui la société française, et la société française qui a été façonnée par le christianisme pendant 15 siècles.
Alors, le deuxième élément de programme que vous nous avez annoncé, c'est... la défense de l'économie et des libertés économiques. C'est un peu... ça ouvre la porte à des ambiguïtés. Parce que est-ce que ça veut dire le libéralisme économique ? Est-ce que ça veut dire la liberté du renard dans le poulailler, selon la formule consacrée ? Qu'entendez-vous précisément par des libertés économiques ?
C'est le libéralisme sur le plan économique, c'est-à-dire pas le libéralisme dans tous les domaines. Mais nous sommes partisans des libertés économiques, c'est-à-dire que les entreprises puissent prendre l'initiative. Tout cela doit être encadré, bien évidemment. Il ne s'agit pas que ce soit l'anarchie et que les entreprises fassent tout et n'importe quoi comme elles l'entendent. Mais c'est en effet les libertés économiques qui aujourd'hui sont totalement bafouées. On ne peut plus rien faire. Les chefs d'entreprise sont confrontés en permanence à toutes sortes de tracasseries, des charges et des impôts qui tombent en avalanche, contre lesquels ils se battent, mais n'arrivent pas bien souvent à dominer.
Mais ça, c'est un peu, pardon de vous le dire, mais c'est un peu le programme du RPR, enfin de l'UMP, ils vous disent la même chose.
Le problème, voilà, c'est la différence entre le discours et les faits, et les actes. D'ailleurs, l'UMP, dans bien des domaines, tient, surtout en campagne électorale, des propos pleins de bon sens, et et disent des choses vraies et promettent des choses qui sont nécessaires, et comme par exemple les libertés économiques, c'est un bon exemple. Et résultat, une fois qu'ils sont offerts, ils ne font rien. Directement lié à ce sujet-là, je prendrai l'exemple de la réforme de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État omnipotent qui tend à, justement à paralyser et à asphyxier notre économie. Parce qu'on paye cher les impôts et les taxes parce que l'appareil d'État est beaucoup trop important. C'est un mammouth. Il y a 20% de fonctionnaires, au moins une masse de 20% de fonctionnaires en trop en France. La droite, la fausse droite, UMP, UDF, avait promis qu'ils engageraient la grande réforme de l'État que les Français attendaient.
Ils ont promis tellement de choses, ces braves gens, que franchement...
Et je crois que beaucoup d'électeurs... sans doute naïvement, ils ont cru, espéraient que l'UMP fasse cette grande réforme. Le résultat, c'est la montagne qui accouche d'une souris, c'est-à-dire que l'UMP, Raffarin et Delevoye en l'occurrence, présente la réforme qui consiste non pas à diminuer radicalement et à réorganiser les services, à diminuer radicalement le nombre de fonctionnaires, mais simplement à transférer le siège de l'ENA de Paris à Strasbourg et à faciliter les allers-retours entre le public et le privé pour les hauts fonctionnaires. Voilà.
Mais c'est Patrick Goffman qui a fait un papier dans le dernier Libre Journal à propos de Blondel.
Numéro 316.
Hein, 316, où on découvre que... Je crois que c'est dans ce papier qu'on découvre que la Sécurité sociale a vu ses effectifs augmenter.
Je ne mentionne pas, mais on en a parlé. Oui.
La Sécurité sociale s'est informatisée. Et dès qu'elle a été informatisée, ce qui normalement aurait dû amener à une réduction drastique des effectifs, on s'est empressé d'augmenter les effectifs. C'est complètement aberrant.
Oui, alors et que là, son travail se fait sur des fichiers, et que c'est typiquement le travail qui est expédié 1000 fois plus vite par des ordinateurs.
Enfin, le problème de la sécurité sociale que vous connaissez bien, c'est que c'est géré par les syndicats, et donc en fait c'est pas géré.
On ne peut pas nous en vouloir, Nicolas Bay, à nous journalistes, de nous arrêter de nous intéresser aux questions de médias. Alors, j'ouvre une parenthèse avant de poser cette question. Vous êtes déjà un fiefé politicien, puisque vous avez réussi en un quart d'heure tout à l'heure à ne pas répondre à ma question essentielle. Quel âge avez-vous? Donc, puisque vous ne voulez pas le dire, je le dis à votre place.
J'ai 26 ans.
Voilà. Ça y est, il a avoué. Mais c'est parce qu'il voit le fouet dans ma main.
Qu'il a dissimulé, c'est voilà.
Mais il a réussi à ne pas le dire en un quart d'heure tout à l'heure. Alors, j'en viens à ma question sur les médias, et vous ne m'en voudrez pas. Parce que j'ai sous les yeux le chaîne, le magazine du Mouvement National Républicain spécial régional, et dirons-nous, Serge, que nous ne l'avons pas reçu du MNR, mais que nous le sommes procurés comme.
De façon frauduleuse, comme d'habitude.
Par des moyens que nous n'avouerons pas.
Pourtant, il est public.
Il est public, mais au Libre Journal, nous ne le recevons pas, malheureusement, à notre grand chagrin.
Mais il va falloir arranger ça.
On veut, donc, avant de se séparer, vous donnez un chèque pour votre abonnement au Libre Journal et on vous donne notre adresse.
Ah, vous serez gagnant parce que je crois que l'abonnement au Libre Journal doit être plus élevé que l'abonnement au chaîne.
Certainement. Alors, j'y relève un article de votre directrice de la communication, l'exquise Séverine Souville. Et donc sous le chapeau média, elle analyse donc les événements électoraux et médiatiques, donc comme c'est son travail au MNR. Et alors je lis dans le chapeau que la participation aux échéances électorales est le sésame de la médiatisation. Et comme c'est une grande dialecticienne et une spécialiste de la communication, je crois qu'elle a fait des études très poussées dans ce domaine et que c'est vraiment peut-être une des meilleures spécialistes en France du communiqué de presse, plus précisément. Elle fait le tour complet de la question et dans sa conclusion, elle revient donc à ce chapeau. Et elle dit surtout, je pense, à ses militants, si les médias, je la cite de nouveau, si les médias réservaient ce même traitement médiatique au MNR toute l'année et pas seulement quelques semaines avant l'élection, nul doute que la progression de notre mouvement s'accélérerait. Fin de citation. Donc, je pense que vous pouvez répondre pour elle jusqu'à un certain point. On se demande si le mouvement national doit compter sur les médias pour son développement et jusqu'à quel point?
Alors, ou est-ce que j'ai mal compris? Je pense que vous n'avez rien compris. Excusez-moi de vous le dire comme ça.
Expliquez-moi tout.
Vous semblez avoir rien compris. L'article explique simplement que, en effet, la présence aux élections régionales, c'est à le dépôt des listes et des candidats à ces élections régionales, permet, je dirais, de rentrer sur la scène politique régionale dans le débat et donc de contraindre en quelque sorte les médias et notamment la grande presse à couvrir les événements de nos campagnes, nos candidats de liste, les interviewer, etc. Voilà. Et c'est vrai que le MNR est habitué à être relativement, voire totalement occulté par les médias. Et le fait d'avoir enfin cette bouffée d'oxygène pendant quelques semaines, de pouvoir exprimer nos idées, de pouvoir dire qu'on représente cette vraie droite pour faire face à l'islamisation, ce que ne font pas nos adversaires ou nos concurrents, eh bien c'est très important. Vous avez des partis politiques, je pense à l'UMP ou au Front National, qui ont un tapis rouge médiatique quasi permanent, quoi qu'ils en disent d'ailleurs, et qui bénéficient d'un traitement médiatique remarquable. Ce n'est pas le cas du MNR. Et c'est, pour nous, ça fait une grosse différence. Le fait de présenter ces listes régionales nous ouvre les portes de certains médias et ça permet d'abord de que les gens se rendent compte que le MNR existe toujours bel et bien et qu'il a des choses à dire et enfin ça nous permet de faire entendre notre voix.
C'est-à-dire, j'ai peut-être compris, donc en fait l'exquise Séverine Souville a voulu dire qu'il ne fallait pas compter sur les médias pour dérouler ce tapis rouge pendant toute l'année, et donc elle sous-entend qu'il faut militer et faire du porte-à-porte.
Je crois que vous vous posez des questions un peu étonnantes, et pas grand-chose. Il semblerait que vous ayez, sur l'article, sur la personne qui l'écrit, des difficultés de communication qui viennent de vous, et certainement pas d'elle ou du service de presse de Benoît Maigret, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre le sens d'un article qui est pourtant d'une grande simplicité. Alors je m'inquiète non pas pour vos qualités intellectuelles, mais pour votre bonne volonté dans ce domaine-là.
Et bien petit, non? T'as vu comment t'es revenu dans tes murs? Très très bien, Nicolas, bravo. Alors ça, c'est bravo. Enfin, un qui s'est décidé à moucher ce supportable Goffman. Voilà, je suis très content.
Attachez votre ceinture, monsieur Goffman.
Bon, et toc. Voilà. Ouais, vous l'avez bien cherché, mon cher ami. Hein. Non, mais il est jeune, mais il a de la moelle. Il faut pas. Je le connais depuis longtemps.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux hommes
bien nés, la valeur n'attend pas. Le nombre des années. Moi, je continue sur le programme. Les écoles. Qu'est-ce que vous entendez faire dans le domaine des écoles? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème de l'enseignement, il y a le problème de la liberté scolaire, le problème du chèque scolaire, par exemple, le problème de la sécurité à l'école.
L'école regroupe tout un ensemble de problèmes. Aujourd'hui, elle est en particulier le lieu de la communautarisation par excellence, qui est extrêmement grave, puisque elle n'est plus le lieu où la communauté nationale a la main sur ce qui se passe, et c'est au contraire les communautarismes divers et variés qui se développent, ce qui est très inquiétant. Sur le plan plus spécifiquement régional, parce qu'on reste quand même, je dirais, un peu dans le cadre des compétences de la région, il faut pour l'école, enfin au sein des écoles, former les jeunes à des métiers où il y a du débouché. Aujourd'hui, c'est le problème principal, c'est-à-dire qu'on les met sur des voies de garage diverses et variées. On leur propose des formations, des orientations d'études, d'études supérieures, qui bien souvent les mènent sur rien du tout, et c'est le problème central. Donc il faudrait que la région mène une politique cohérente à la fois dans les lycées et sur le plan de la formation professionnelle, parce qu'il y a des secteurs, des métiers, où il y a énormément d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Et à l'inverse, il y a des secteurs complètement saturés, où les étudiants viennent s'entasser, et avec Bac plus 4 ou Bac plus 5, ne trouvent pas d'emploi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a... l'école a été dénaturée par la gauche, qui a fait absolument n'importe quoi, et là c'est valable pas seulement dans les lycées, hein, c'est aussi les écoles, les collèges, les universités. L'école intervient dans tous les domaines, et elle n'est plus le lieu de transmission du savoir. Je crois que ça peut paraître un peu banal, mais je crois que ça résume bien la situation. Les profs interviennent sur tout un tas de sujets, se permettent de sortir de leur devoir de réserve de fonctionnaire dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine philosophique, mais ne sont plus capables d'inculquer aux élèves les bases, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont payés.
Pour terminer, je voudrais vous poser une question, mais qui est un peu délicate. Mais tant pis, je vous la pose quand même. Je ne sais pas pour vous mettre mal à l'aise, mais parce que ça me travaille beaucoup, ça. Je vous connais depuis un certain nombre d'années. Je considère que vous êtes un des garçons brillants de la nouvelle génération politique. Et ce qui me surprend, c'est qu'un garçon comme vous, soit tête de liste d'un mouvement qui, à l'évidence, est un mouvement qui est, en tout cas pour l'instant, qui n'a pas d'existence politique, tout simplement. Alors que...
Sa simple présence à ces élections montre qu'il a une existence politique, quand même.
Oui, enfin...
Même s'il a un poids électoral...
Mon opinion, c'est une apparence, c'est pas une réalité. Vous pouvez espérer que ça le sera, et je sais que beaucoup d'électeurs sympathisants du MNR l'espèrent, mais la réalité aujourd'hui, elle est celle-là. Je vous dis très franchement que moi, je considère que l'opération de lancement du MNR a échoué, et que maintenant, ça devient quelque chose, ça devient résiduel. Et ce que je ne comprends pas, c'est que des jeunes gens qui, justement, auraient pu apporter dans un mouvement qui, lui, a une vraie place, occupe une vraie place politique très importante et pleine de possibilités, qui auraient pu apporter leur jeunesse, leur intelligence, leur efficacité, leur brio, leur courage, vont dans une direction qui est évidemment une direction, je répète, à mon sens, sans issue. Mais est-ce que par moment vous n'avez pas le regret de ne pas avoir mis vos qualités au service d'une véritable modification, d'une véritable réforme de la droite nationale dans sa partie la plus puissante?
Il y en a qui ont essayé de le faire un temps, et Jean-Marie Le Pen a fait un autre choix, qui est d'enfermer le Front National définitivement là où il est, et de l'empêcher, quelque forme que ce soit, d'accéder un jour à la responsabilité. Je prendrai comme dernier exemple, particulièrement flagrant, son histoire d'inéligibilité dans le sud de la France. Parce qu'il ne faut pas, dans ce domaine-là, se moquer du monde. Il y a quand même quelque chose d'un peu indécent à expliquer aux gens qu'on est le paravent de la morale, qu'on est les meilleurs, que les autres sont tous des salauds, etc., etc. J'exagère, que je caricature volontiers, mais je sais que c'est quand même un peu ça. Et dans le même temps, mentir de façon un peu cynique comme ça aux gens, en faisant du barouf pendant 10 jours pour expliquer qu'on l'empêche d'être candidat, que c'est ignoble, procéder infâme, etc. Alors qu'en réalité, il avait parfaitement la possibilité d'être candidat, comme une personne de son entourage l'a dit dès le début de l'affaire. Il s'inscrivait au registre du commerce comme travailleur indépendant ou en société unipersonnelle. Il était candidat.
Nicolas, j'ai rien compris, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un événement symétrique en Champagne-Ardenne?
Alors, de très bonnes remarques, monsieur Gosselin. C'est peut-être la première chose intelligente que vous dites depuis le début.
Merci.
Alors, tu peux détacher ta ceinture.
Bruno Maigret s'est installé récemment en Champagne-Ardenne. Et il a rempli toutes les conditions pour être candidat en prenant un bail qui a son nom pour un appartement qu'il loue à Châlons-en-Champagne.
Et les services. Un appartement, oui.
Il loue un appartement à Châlons-en-Champagne, ce qui lui permet d'être éligible dans la région.
Certains parlent de chambre d'hôtel.
Non, c'est un appartement, je vous confirme. Vos sources sont déficientes. Il est allé aux impôts pour se faire, pour payer sa taxe d'habitation, et qu'il est plein de bonne volonté, et on l'en empêche. C'est une situation absolument choquante et totalement paradoxale, c'est-à-dire qu'il a un bail en bonne et due forme, il veut payer des impôts, on l'en empêche. Au motif qu'il n'y a pas une mention dans une case précise, qui précise, je crois, la surface exacte en mètres carrés, etc. Enfin, on est dans la bricole, alors ça va faire l'objet d'un contentieux dans le Conseil d'État, mais ça l'a empêché d'être candidat. Et je précise que lui n'avait pas, en revanche, à la différence de Le Pen, la possibilité de s'inscrire au registre du commerce, parce que il est fonctionnaire par ailleurs. Et donc c'est incompatible. Voilà, je fais la parenthèse sur ces histoires d'inéligibilité. Je reviens sur votre question première, Serge. Pourquoi, moi, je m'engage au MNR? Parce que je pense que même si le MNR aujourd'hui n'a pas encore pris son essor, il y aura demain la place sur la scène politique pour faire émerger une vraie droite. Une fois que les Chirac, les Le Pen, le personnel politique de 70 ans et plus aura quitté...
Ne vous moquez pas des vieillards, ça va vous arriver.
Non, mais je ne me moque pas d'eux, mais c'est un constat. C'est quand même des personnes qui sont âgées pour faire de la politique, qui se maintiennent encore sur la scène et qui peu à peu vont partir, je dirais, de façon très naturelle.
Vous savez que dans la Grèce antique, c'est à partir de 50 ans qu'on avait le droit d'ouvrir son four, hein, jusqu'à 5 ans, on l'a fermé.
Oui, vous m'avez laissé un micro, alors j'en profite. Et il y aura demain, c'est certain, la place pour la composition à droite, et c'est moi dans cet esprit-là que je m'engage aux côtés de Bruno Maigret, je le répète, pour faire un score immédiatement. Moi, je ne vais pas aux élections pour des raisons alimentaires comme le font certains. Moi, j'ai 26 ans, je suis conseiller municipal à Sarfauville. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on l'amène la vie dure là-bas. Et j'ai créé par ailleurs une petite société, une entreprise qui me permet d'avoir des revenus et de ne pas pas vivre de la politique. Vous voyez que j'ai pas eu mes dispositions pour que quel que soit le score que je ferai le 21 mars, et d'une manière plus générale, je ne suis pas dépendant financièrement de la politique comme le sont beaucoup. Parce que ce qui fait que souvent on réunit ses idées, etc., quand on fait de la politique, et on le constate quand on voit souvent les hommes politiques changer d'idée comme de chemise, eh bien c'est justement c'est la carrière le problème. C'est qu'ils font tous carrière, ils sont dans cette logique-là. Et quand on est dans cette logique de carrière, et bien souvent, on met ses idées sous le boisseau. Voilà. Et c'est
alors nous, on prend le pari. Vous ne ferez pas carrière en politique.
Alors, on verra si je fais carrière en politique. C'est sans doute trop tôt pour le dire. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que moi, j'entends être indépendant pour pouvoir d'abord défendre des idées de conviction. C'est le sens de mon engagement avec Bruno Maigret. Et encore une fois, le MNR, dans cette élection régionale, a pour objectif de faire entendre les idées et les valeurs d'une vraie droite, ce qu'aucun autre ne fait. Et je prendrai l'exemple de la différence, par exemple, avec la candidate du FN, Marine Le Pen, qui prend une position très politiquement correcte sur la question de la défense de la vie. C'est une question absolument centrale. Je crois qu'il faut faire preuve dans ce domaine-là de fermeté. Je profite d'ailleurs pour saluer le combat admirable et courageux du docteur Ador, qui est régulièrement votre invité ici. Le Front National, sur ce sujet-là, n'a plus une position claire, si j'ai tenté qu'il n'en ait jamais eu une.
Est-ce que ça veut dire que le MNR a une position claire, lui?
Absolument, le MNR a toujours une position.
Et pour l'abolition de la loi Veil?
Alors, je crois qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans des débats qui méritent une longue explication. L'objectif, évidemment, c'est de mettre un terme à la banalisation de l'avortement. Voilà. Maintenant, la question de savoir s'il faudrait abroger la loi Veil, dans le cas où on a une majorité de députés à l'Assemblée, c'est difficile, ou en tout cas difficile à traiter dans l'immédiat, parce que si on abroge la loi Veil demain, le seul effet que ça va produire, c'est que les avortements vont peut-être redoubler, parce que le lobby de l'avortement sera renforcé et motivé, et puis les femmes qui voudront avorter iront avorter aux frontières de Suisse, de Belgique, etc.
Donc, je vais encore dire une bêtise, mais j'ai l'impression que vous citez mot à mot Marine Le Pen quand nous l'avons reçue il y a 2 mois ici.
Non, parce que moi, elle a dit récemment, par exemple, que abroger la loi Veil serait une aberration. Je ne vais pas si loin. Je ne pense pas que ce serait une aberration. Mais la question que je pose, c'est simplement, la situation n'est pas forcément...
Enfin,
pour prendre un sujet moins sensible.
Oui, surtout qui est hors débat.
Voilà, et moins compliqué. Seule islamisation, moi, je m'étonne de voir M. Le Pen qui est invité de l'ambassade d'Iran chaque année pour l'anniversaire de la révolution islamique, demande quel crédit il peut avoir ensuite pour défendre la France face à l'islamisation, quand les élus du Front National dans certains conseils régionaux laissent voter et s'abstiennent sur la construction de mosquées monumentales. Je m'étonne, je m'en étonne, je me demande qui défend encore les Français.
Vous n'avez pas l'impression que c'est un combat un peu d'arrière-garde, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes pris entre deux attitudes, une attitude constructive en disant voilà ce qu'on veut faire,
oui.
et puis d'autre part une attitude négative qui consiste à dire sur chaque question, je suis pas d'accord parce que Le Pen fait ça ou les Le Pen font ça,
non,
etc.
Mais là c'est parce que vous me parliez, Monsieur Goffman m'en parlait tout à l'heure du Front National, mais je m'empresse quand même de préciser qu'on est également très éloigné de la position de l'UMP sur la question de l'islamisation. Ils ont joué au pompier pyromane. Ils ont, dans un premier temps, créé le Conseil français du culte musulman, qui légitimise, qui institutionnalise un islam, et en l'occurrence un islam radical au cœur de la République. Et ensuite, quelques semaines plus tard, une fois qu'ils ont créé l'affaire du voile, de toutes pièces, puisqu'avant, on avait quelques dizaines de cas par an de voile islamique dans les écoles, c'était par milliers, eh bien, ils ont fait adopter par la majorité une loi qui en elle-même n'est pas mauvaise, qui interdit le voile islamique dans les écoles, mais... On a le sentiment.
Je ne sais pas si elle est mauvaise ou pas, mais elle est inapplicable.
Elle est sans doute difficilement applicable. Nous avons pris position en faveur de cette loi parce qu'elle va dans le bon sens dans la situation défensive dans laquelle on est aujourd'hui, où la République est directement menacée par l'islamisation. Mais ce qui est certain, c'est que l'UMP fait preuve, et le gouvernement Raffarin et Sarkozy et consorts font preuve d'une totale irresponsabilité dans ce domaine-là. C'est assez frappant de voir qu'ils sont capables de prendre une décision et 2 mois après de faire exactement le contraire. Ça montre qu'il n'y a aucune colonne vertébrale doctrinale, que cette droite n'est pas de droite, qu'elle fait une politique de gauche, et dans ce domaine-là, elle l'a parfaitement bien illustré, puisqu'elle a fait ce que la gauche n'a pas osé faire.
Nicolas, ben, merci. Il y a des messages, oui, ben, les messages répètent les questions que je vous ai posées, donc je crois utile de les reposer. Pourquoi n'y a-t-il pas une entente entre Maigret et Gollnisch? Ça a déjà été... les deux y ont répondu. Voilà. Oui, vous voulez poser deux questions, Victoria, allez-y.
Non, c'est deux affirmations.
Ah, deux affirmations.
Ce jeune homme a raison, car il représente l'avenir de la véritable droite nationale. C'est bien
26
dommage.
26 ans, c'est facile de représenter l'avenir, quand même.
C'est bien dommage et triste qu'il y ait eu cette scission. Et
on
puis,
est tout à fait d'accord.
Un auditeur, ça c'était une audite. Non, c'est deux auditeurs. J'ai confiance dans le MNR sur le fond et à long terme. Mais le but que je vise pour les élections immédiates, c'est de battre la gauche. Comme le Front National est plus connu que le MNR, je vote Front National.
Reste à savoir si le Front National fait ce qu'il faut pour faire battre la gauche ou si au contraire, il ne la fait pas bien souvent passer. Mais c'est un autre débat.
Entre nous, c'est quelque chose qu'on peut retourner. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, on a des auditeurs qui nous ont dit, finalement, la seule fonction du MNR là-dedans, c'est de faire baisser le score du Front National, de même que la présidentielle. Si Maigret ne s'était pas présenté, Le Pen aurait été en tête devant Chirac.
Ce qui est faux, d'ailleurs.
Les gens qui ont
choisi de voter Maigret, c'est précisément parce qu'ils ne voulaient pas voter Le Pen, alors même qu'il y avait une dynamique médiatique très forte en faveur de Le Pen. Donc on peut penser que ces gens-là, de toute façon, ne votaient pas Le Pen.
Pourtant, Le Pen, au deuxième tour, a retrouvé les voix de Maigret,
parce que Benoît Maigret a appelé à l'époque à voter pour lui.
De toute façon, ça, ce sont des considérations qui sont oiseuses, puisque c'est d'abord du passé, et puis c'est des choses invérifiables. Oui. On verra. Exact. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à Bruno Gollnisch, et vous, qu'est-ce que vous considéreriez comme un score décent?
C'est une bonne question. Eh bien, moi, à partir du score qu'on a fait au président national, c'est environ 2% sur l'Île-de-France, je serais très satisfait parce qu'on pose les bases pour faire émerger en France une vraie droite. C'est le but du MNR. Moi, j'ai le temps, j'ai 26 ans, donc je ne suis pas à l'affût du score électoral pour obtenir un mandat dans l'immédiat. C'est pas pour ça que je me bats, c'est d'abord pour des idées. Donc on verra bien, c'est aux électeurs de décider, pas aux instituts de sondage, mais quel que soit le score qu'ils nous donneront, eh bien, ça ne fera que renforcer notre conviction et notre détermination.
Donc vous êtes démocrate.
Je défends les principes démocratiques.
Bravo. Merci Nicolas Bay.
Merci Serge.
On va quitter la France avec mon nouvel invité. Alors je vais vous avouer, j'ai perdu le papier et comme j'ai une tête à peu près pleine d'eau, je suis obligé de rechercher mon papier pour vous dire que je reçois M. Dechassé. Voilà. J'ai parfois comme ça des petits troubles. J'espère que ça va pas durer. Quel était le prénom d'Aloysius? Non, c'est pas ça, c'était l'autre. Vous savez ce qu'on dit? Quel était le prénom d'Alzheimer? C'était Aloysius, voilà, il faut le savoir. Alors, monsieur Dechassé, vous êtes... Vous êtes membre ou président ou animateur d'une association qui s'occupe du Vietnam catholique.
Oui, les trois à la fois.
Bon. Mais vous n'êtes pas le seul membre, j'espère, en plus.
Non, il y a quelques membres, mais peu de membres. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Bon, l'association Saint-Jacques, puisqu'il s'agit d'elle, est une association qui existe depuis une douzaine d'années. Et elle s'est spécialisée sur le Vietnam depuis 8 ans, hein, presque exclusivement. On a travaillé un petit peu autrefois sur l'Afrique, et là, dernièrement, on a fait une action, il y a un an et demi, on a fait une action qui est d'ailleurs encore en cours sur le Gabon, avec la mission de la Fraternité Saint-Pédis, donc à Fourplace, presque sous l'équateur. Et puis également, par exemple, une action avec un prêtre diocésain du Burkina Faso. Bon. Mais donc, c'est un petit peu anecdotique, quoique on pourra toujours continuer. Mais là, on va parler du Vietnam. C'est l'association Saint-Jacques, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est une association qui a une référence chrétienne. Hein. Et d'ailleurs, c'est indiqué clairement dans...
catholique.
Catholique, oui. Et puis vous allez le voir par la suite. Hein. Donc, c'est clairement dans son but, hein, puisque c'est l'entraide des catholiques dans le monde, ou l'entraide des chrétiens dans le monde. C'est une association qui travaille donc au Vietnam, comme l'association Solidarité Chrétienne France-Vietnam, que vous avez peut-être connue, ou en tout cas que les auditeurs de Radio Courtoisie ont connue, et qui malheureusement qui s'est dissoute, hein, carrément. Bon, je ne reviendrai pas sur cette affaire. L'association Saint-Jacques, elle reprend pleinement le flambeau, mais nous n'avons pas d'accord particulier avec cette association dissoute.
quoique j'en ai fait partie personnellement, et que notre équipe pour le Vietnam s'est d'ailleurs connue par cette association. Et notre équipe qui travaille sur le terrain sont essentiellement deux Vietnamiens de nationalité française qui vont une fois par an au Vietnam. Hein. Il y en a un qui retourne depuis peu parce que c'est un ancien boat people, un vrai boat people, et qui est un frère également, frère des écoles chrétiennes.
Quelle est l'activité principale de cette association ?
Alors, l'association a une chance, c'est qu'à sa création, elle a pu bénéficier d'une dotation et qui lui permet de faire des projets sur le Vietnam. Ces projets, on va tout de suite venir dessus. Ce sont par exemple un dispensaire, une école, la participation à une église, etc. Et donc pour ça, en principe, nous ne demanderons pas d'argent. Hein, donc,
rassurez-vous.
Mais il y aura d'autres moyens de participer. Donc ça, les personnes qui seront intéressées, hein, nous leur donnerons le détail de ce que nous avons fait, comme nous vous l'avons montré. Et je vais vous le remontrer d'ailleurs avec des photos. Mais je vais dire quand même en passant le milieu dans lequel on travaille. On travaille essentiellement alors avec des paroisses, donc curés de paroisse. Éventuellement, on a des contacts avec des évêchés, surtout un évêché, celui de Bouichou, au nord, et on travaille avec des congrégations religieuses, notamment des congrégations religieuses qui ne sont pas connues, qui sont diocésaines au Vietnam, donc qui ne sont pas connues à l'extérieur du Vietnam, comme les sœurs du Saint-Rosaire, et, ou comme les sœurs lassaliennes. Les sœurs lassaliennes, ce sont des sœurs de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, mais c'est une spécialité vietnamienne, les sœurs lassaliennes n'existent nulle part ailleurs.
Donc il reste quand même une forte implantation catholique au Vietnam.
Oui.
Mais avec quelle attitude des autorités ?
Et qui est extrêmement dynamique. Alors l'attitude des autorités, j'avais prévu quelque chose pour la fin, mais enfin on peut tout de suite en parler. Hein. C'est l'eau chaude et l'eau froide. Bon, pour donner le système, le gouvernement vietnamien communiste ne s'attaque pas à la religion directement, mais par des tas d'artifices, en l'occurrence un système juridique, là j'en ai deux, trois pages, hein, sur la réflexion sur la situation religieuse de l'Église catholique du Vietnam, mais je vais juste en retirer quelques lignes. Avec un tel système juridique, contradictoire et interprétable à volonté, le pouvoir peut à loisir arrêter ou emprisonner les fidèles pour infraction à la loi et non à cause de leur pratique religieuse.
Non.
Voilà le
technique communiste.
Voilà le système.
On l'a vu partout.
Donc, là, par exemple, on édifie une route de béton traversant la route de l'église. Ça, c'est à huer.
Il y a combien d'habitants au Vietnam aujourd'hui ?
Ah, là vous me posez une colle. Je sais que le pourcentage de catholiques est autour de 8%. Mm-hmm. C'est assez important. Et surtout, on a une communauté catholique qui est très dynamique. Vraiment très très dynamique. Vous l'avez peut-être vu par les photos, mais quand on voit, regardez ces postulantes
la plupart de nos auditeurs n'ont pas la radio en couleur. Vous avez un site, vous pouvez donner un site où ils peuvent retrouver ces photos.
Nous les enverrons, on photocopie, on travaille de façon assez artisanale, on photocopie et puis on vous les enverra.
En tout cas, là on voit donc sur les photos la construction de la paroisse de Quang Cong, qui est effectivement un grand chantier, et puis on voit les sœurs du Saint-Rosaire, qui sont nombreuses, sont des jeunes filles, des très jeunes filles, mais assez alors, nombreuses finalement.
Voilà les sœurs lassaliennes, oui. Vous voyez, encore oui, de nombreuses jeunes filles. Et qu'est-ce que vous voyez derrière les sœurs lassaliennes ? Regardez bien.
Ben, on voit un clocher. Ah, c'est une tour Eiffel.
On voit une tour Eiffel.
En miniature dans le jardin. Oui, c'est amusant, ça.
Vous voyez jusqu'où va la reconnaissance des catholiques du Vietnam, parce que l'association Saint-Jacques est domiciliée à Paris et qu'on a aidé pour l'implantation des sœurs, une nouvelle implantation des sœurs lassalliennes.
Vous les aidez à...
Voyez, on voit encore derrière les petits-enfants, voilà, on voit la tour. Une magnifique tour Eiffel qui fait peut-être 3 mètres de haut. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais préféré les tours de Notre-Dame. Mais pour eux, la tour Eiffel, vous voyez, même en milieu religieux, la tour Eiffel est importante. Tous nos projets sont faits de façon très très rigoureuse et ils sont contrôlés. Et ensuite, nous demandons toujours une reconnaissance avec une plaque. C'est pour être sûr.
Manifester la présence.
Voilà, pour être sûr. Alors, vous voyez, remerciements à l'association Saint-Jacques, etc. Un petit exemple en passant, c'est les deux vélomoteurs qu'on a offerts à des religieuses qui vont soigner les handicapés à la campagne, en partant du principe qu'il valait mieux les soigner, que les parents gardent les enfants handicapés plutôt que de les mettre dans un orphelinat avec tous les problèmes que ça pose. Alors, on encourage les parents à garder leurs enfants handicapés chez eux, et par contre, il y a des sœurs qui font la permanence en vélomoteur.
Et donc, là, en gros, dans ces activités...
Là, on le voit mieux. Ouais. Regardez les deux vélomoteurs.
Alors, ils sont marqués, effectivement, Saint-Jacques 1 et Saint-Jacques 2. Mais... sur ce plan humanitaire, vous avez des relations avec les autorités locales? Comment ça se passe?
Non, pas du tout.
Non, on
les évite parce que c'est des complications sans fin. Hein. Donc on fait comme si on était nouveau à chaque fois dans chaque paroisse, dans chaque.
Alors vous nous avez dit au début que vous ne veniez pas demander de l'argent, mais comment peut-on participer?
On a parlé de la première affaire qui sont donc les projets. Et la deuxième affaire qui était extrêmement importante, c'est le développement du français au Vietnam. Or, il se trouve que dans le milieu catholique, dans le milieu religieux, on a une demande pour le français. Et c'est peut-être le seul...
Pour
la langue française. Malheureusement, on ne l'aura pas dans le domaine commercial. Hein, et je crois qu'il faut... Là, il faut définitivement perdre nos illusions. Mais on l'a dans le milieu religieux. C'est extraordinaire. Il y a une demande. Donc, nous organisons des parrainages avec des parrains pour les pré-séminaristes, avec des marraines... Pour les religieuses, je parle des pré-séminaristes parce que ils font des études avant d'entrer au séminaire, donc ils peuvent avoir le temps de faire du français, et donc nous les soutenons. Les religieuses, c'est pareil, sont des religieuses étudiantes, bien qu'il n'y ait plus de missionnaires français, etc., ces communautés veulent apprendre, hein, comme on pourrait dire, elles veulent s'instruire, hein. Elles veulent absolument s'instruire pour apprendre. Alors donc c'est le parrainage. Par exemple, se fait à Hanoï. On va passer par l'Alliance française, qui ne s'appelle plus l'Alliance française, qui s'appelle le Centre culturel français. On passe par le Centre culturel. Les religieuses ou les pré-séminaristes s'inscrivent au nom de l'association Saint-Jacques et nous réglons directement sur facture le Centre culturel français qui nous envoie sa facture.
Et donc là, pour permettre à ces jeunes futurs séminaristes ou à ces jeunes futures religieuses d'apprendre la langue française, on peut vous aider financièrement à payer en quelque sorte
leur scolarité. Le principal, c'est d'accepter le principe du parrainage, c'est de correspondre avec ces étudiants, de les suivre, de les motiver. Et forcément, alors là, je pense que là, c'est absolument indissociable. Il faut que le parrain paye les cours, si vous voulez. Il faut que ça soit un tout, hein, comme on dit. Hein. Et donc, le coût, mais ça, on le précisera aussi par écrit pour les personnes qui le demanderont, c'est 30 euros par trimestre, hein, parce que ce sont des sessions qui
dure 3 mois. Ouais. Nous travaillons également à Saïgon avec l'IDECAF, où nous avons également des religieuses, où nous avons 5 religieuses. On développe et nous faisons un appel justement parce que nous allons développer. Et avec d'autres congrégations, là nous avons une nouvelle congrégation, les Amandes de la Croix, qui vont nous envoyer une étudiante. À Bouichou, donc on avait les étudiantes font leurs études à Hanoï, donc on avait le Saint-Rosaire, et maintenant on a des dominicaines, il y en a 5 qui vont s'inscrire. Donc on va avoir besoin de cinq marraines déjà. Plus on a encore des pré-séminaristes.
Alors, je vous propose, monsieur Duchesse, on va donner votre adresse, on va donner peut-être un numéro de téléphone où on peut vous joindre.
Tout à fait.
Et puis donc, les auditeurs qui sont intéressés pourront s'adresser directement à vous pour avoir le détail technique, parce qu'on ne peut pas expliquer ça ici.
D'autant qu'il nous reste 3 minutes et qu'on a quelques annonces
alors,
à faire.
Je donne l'adresse. Alors, c'est l'association Saint-Jacques, 202 rue Lecourbe, 75 015 Paris.
202 rue Lecourbe, 75 015 Paris.
Vous envoyez directement au 202 rue Lecourbe, le courrier arrive sans problème.
Et
le téléphone 01 48 42 50 26, de préférence après 19h.
Très bien, je vous remercie beaucoup. Nos auditeurs vont prendre contact avec vous, puis on les tiendra au courant dans la suite des événements, et notamment de l'avancement de ces petits séminaristes vietnamiens.
Eh bien voilà, donc oui, si l'émission pouvait être par l'intermédiaire des parrains, pouvait parrainer, ce serait vraiment l'émission qui serait parrain parrain de ces religieuses et de ces pré-séminaristes.
Merci
on a d'autres demandes, mais on pourra les donner par écrit si vous nous écrivez au 202 rue Lecourbe à Paris 15e.
Merci monsieur.
Victoria, les annonces.
C'est moi qui vous remercie.
La bibliothèque Jeanne d'Arc organise une conférence sur le thème « La France et l'origine de la tragédie palestinienne ». Le conférencier en est l'historien Philippe Prévost. Cette conférence aura lieu le jeudi 4 mars à 20h au 165 rue Jeanne d'Arc, Paris 13e.
C'est mon
métro Campo Formio, entrée libre et gratuite.
Pardon Victoria, c'est mon tour. Alors, je donne un rendez-vous personnel aux auditeurs et en particulier à cette auditrice qui m'envoie un message pour me dire, je la cite, qu'elle me trouve très sympathique depuis qu'elle a lu mon livre « Batafam ». Alors, je lui indique que je serai à ce micro, je serai sur cette antenne samedi prochain 6 mars à 12h avec un invité de Hux et Rapion, je pourrai me répondre sur ce livre. Et je serai également à table à 20h le même jour samedi 6 mars à Lille avec Flandre Identité. Dîner 18€, téléphone 03 28 82 56 69.
Maxime Lenôtre dédicacera son livre « La création de l'islam » à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, le vendredi 5 mars de 17h à 18h30 et à la librairie Duquel le samedi 6 de 17h à 19h.
Vous évoquiez, Serge, notre article sur la CGT farce ouvrière dans le dernier numéro du Libre Journal. Eh bien, pour illustrer cet article, nous avons vu un spectacle délicieux et très drôle au Théâtre des Deux Ânes, 100 boulevard de Clichy, métro Porte de Clichy. Ça s'appelle « Et la tendresse Blondel ». C'est très amusant. 01 46 06 10 26.
Je rappelle que le samedi 20 mars, de 15h à 18h30, Daniel Amiche signera à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, son livre « La Passion de Mel Gibson de A à Z ».
Je crois que c'est le jour même de la journée russe, n'est-ce pas, samedi 20 mars, Victoria, c'est bien ça?
Oui, oui.
Merci, la journée russe, c'est à la librairie
France Livre, 6 rue du Petit Pont.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 mars 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie. Dans un instant, à 21h, les soirées musicales. À minuit, le...